vous allez entendre un message de William Branham, prêché le 21 février 1965 au Parkview Junior High School à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule « Mariage et divorce ».
One male. At the beginning, as he told us to go back, there was only one pair of anything. Is that true?
Amen.
Then we find out that everything in the beginning was running in perfect order and harmony with God. Nothing was out of care. Everything in heaven still in order.
Premièrement, pendant un court instant, vous entendrez Frère Branham prêcher en anglais. Puis vous entendrez la traduction française de ce message.
You see, one interruption spoils the entire program. Now, when human beings was running in continuity with God, with one man and one woman, this woman sinned. And it drove the whole earthly program out of continuity with God. Therefore, one word added to this book, or one word taken from it, throws a Christian out of continuity with God. Throws a church out of continuity with God. Throws a family out of continuity with God. Every believer can be thrown out by not accepting every word of God. Then it was the woman that caused the separation of the lovely home. It was not a cherubim that bothered the earth. It was not Adam that drove the home out. It was not anything else that drove the home out and drove the whole thing out of continuity, but a woman, Eve. And it is here that the beginning that Jesus spoke of was broken. Jesus said, at the beginning, God made one male, one female of each kind. And now,
maintenant, inclinons nos têtes pour un instant de prière. Père Céleste, nous te remercions ce matin du privilège que nous avons d'être ici dans cet auditorium, nous préparant à affronter le dénouement de la journée. Nous ne savons pas ce que ce jour nous réserve, mais nous savons qui tient le jour. Ainsi nous prions celui qui tient aujourd'hui, demain et toute l'éternité dans sa main, de nous bénir aujourd'hui, tandis que nous sommes rassemblés en son nom, afin que nous sachions mieux comment vivre pour le servir. C'est là tout notre désir, Père. Le Dieu qui connaît nos cœurs sait que c'est vrai. Nous nous en remettons à toi pour les heures à venir à ton service. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Bonjour, auditeurs visibles et invisibles à qui nous sommes reliés dans tout le pays ce matin. C'est un grand privilège pour moi de venir ici et de parler de ce sujet vital. Pour les auditeurs visibles, c'est quelque peu gênant, parce que juste devant moi, il y a un rideau, et ainsi je dois parler à droite et à gauche. Et pour les auditeurs invisibles, j'ai l'auditorium à ma droite et la salle de gymnastique à ma gauche. Quant à moi, je suis au milieu avec un rideau qui sépare ceux qui sont à ma droite et ceux qui sont à ma gauche. Ce matin, l'auditorium, la salle de gymnastique et aussi l'église qui se trouve là-bas, à la jonction entre la 8e rue et la rue Penn, sont combles. De là, les autres endroits sont reliés par téléphone. Nous avons passé des instants merveilleux dans le Seigneur Et nous attendons de grandes choses au cours de ce service, ce matin. Et comme ce soir marque la fin de cette campagne de 4 jours, nous invitons encore tous ceux qui peuvent venir ici. Nous croyons que le Seigneur nous amènera ce soir au point culminant en faisant quelque chose de tout à fait extraordinaire. Au point de guérir tous les malades et de faire les grandes choses qu'il accomplit généralement. Nous attendons de grandes choses pour ce soir. Le public est cordialement invité. Chacun, chaque église de chaque dénomination. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien. Nous invitons cordialement les pécheurs à entrer et à s'asseoir parmi nous. Et nous ferons de notre mieux pour leur enseigner le chemin du Seigneur qui conduit à la vie. Maintenant, j'espère que les auditeurs ne seront pas tendus. Et je me confie en Dieu pour que je ne sois pas nerveux non plus. Car j'ai passé une nuit terrible dans une grande tension nerveuse. Je réalise en effet que les choses que je vais dire ce matin me seront redemandées au jour du jugement. Je n'ai pas pu dormir. Et je sais que si je ne le dis pas, cela me sera aussi redemandé au jour du jugement. Ainsi, cela rend la chose difficile. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Ce matin, nous devons nous entretenir de ce grand sujet, mariage et divorce. La raison pour laquelle je l'ai fait dans le cadre de l'école du dimanche, c'est afin que nous puissions parler en prenant tout notre temps. Au lieu de prêcher un serment là-dessus, ce sera un enseignement venant de l'Écriture. Et j'aimerais dire ceci, si cette bande devait tomber quelque part entre les mains de prédicateurs, pour le cas où nous laisserions sortir cette bande, je ne sais pas ce que l'Église décidera à ce sujet. Je demande à Frère Fred d'examiner la chose avec le conseil de l'Église avant de laisser sortir cette bande. Et à vous qui, à travers le pays, désirez enregistrer, veuillez s'il vous plaît ne pas diffuser cette bande avant d'avoir des nouvelles de Frère Sothman. Maintenant, si elle est mise en circulation et que certains de mes frères dans le ministère ou n'importe quel chrétien ne soient pas d'accord avec ce que je dis à ce sujet, j'espère que vous ne le critiquerez pas. Si vous ne le comprenez pas de la façon dont je l'enseigne, eh bien, vous en avez le droit en tant que prédicateur, en tant que berger, et je respecte tout ce que vous croyez. Il y a 2 conceptions. Et s'il y a 2 points de vue qui s'affrontent, ou bien l'un est juste, ou bien l'un et l'autre sont faux. Ainsi, nous allons essayer ce matin de regarder la parole de Dieu pour régler ceci. Pour moi, si c'est une question biblique, la Bible assurément nous en donne la réponse. Et maintenant, juste avant que nous ayons que nous abordions ce sujet et que je prie sur la parole, je désire demander en particulier à chacun de vous qui êtes chrétien de prier pour moi ce matin. Et vous, auditeurs invisibles, qui êtes à l'écoute, priez aussi pour moi, car je veux être honnête et véridique. Maintenant, nous réalisons qu'en faisant ces déclarations, quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne, s'accrochera à cela comme si c'était une question de vie ou de mort. Beaucoup ici partiront en croyant cela. Il se peut aussi que beaucoup d'entre vous ne le croiront pas. Mais je sais que dans mon ministère, il y a des gens qui viennent m'écouter. Écoutez ce que j'ai à dire de... Eh bien, ils sont assis ici même ce matin, venant de tous les pays. Beaucoup viennent des États-Unis, du Canada et d'outre-mer. Vous pouvez imaginer la tension que cela crée en vous, que vous savez que la destinée éternelle d'un homme se trouve entre vos mains, parce qu'il va se cramponner à ce que vous dites, et que je devrais un jour répondre devant Dieu. C'est pourquoi je veux apporter ceci aussi sincèrement que possible. Maintenant, je demande à nos sœurs. J'ai changé quelque peu le choix de mon vocabulaire afin de pouvoir parler devant elle. Billy a dans sa poche ce matin certains de ces points que je ne pouvais apporter devant un auditoire mixte.
Toutefois, il y a certaines choses que je dirais tout de même, ceci afin que vous compreniez. Prenez-le comme venant d'un frère. Si vous étiez assis dans le cabinet d'un médecin en train de l'écouter, il devrait, je présume, vous dire des choses très directes. Et je ne veux pas que certains d'entre vous, jeunes filles et jeunes gens, le preniez mal. Je veux que vous croyiez et restiez tranquillement assis. Souvenez-vous que la vérité doit être déclarée reconnue pour vraie. Il y en aura sans doute beaucoup parmi vous qui ne seront pas d'accord avec ce qui va être dit, mais je veux vous le prouver par la Bible. Je crois que si vous écoutez avec respect, vous saisirez mieux et vous aurez une meilleure compréhension de ce que je me suis efforcé de faire pendant tant d'années. Je crois que ceci l'expliquera. Je l'espère. Il se peut que cet exposé soit un peu long, une heure et demie ou peut-être davantage. Je ne sais pas exactement combien de temps cela prendra. Maintenant, j'aimerais dire à nouveau ceci, sachant que des gens s'en tiendront à mes paroles. Ils le font pour le pasteur, et bien sûr, j'ai été pasteur. Ils s'attachent aux paroles d'un pasteur, comme si c'était une question de vie ou de mort. Ils s'attachent aux paroles de leur prêtre, comme si c'était la vie et la mort. Et bien sûr, le pasteur, avec toute sa connaissance, enseigne ses fidèles, exactement comme lui-même fut enseigné au séminaire. Sans doute, le prêtre le fait aussi dans les différentes religions où il y a des prêtres. Le pasteur est en fait un prêtre, c'est un intercesseur. Ainsi, le prêtre, avec tout l'enseignement qu'il a reçu au séminaire et dans les monastères, un homme avec une profonde sincérité répète exactement ce qu'il a reçu comme enseignement. Eh bien, quant à moi, je n'ai pas l'expérience de séminaire ou de monastère, et je n'ai rien du tout à contre, mais j'ai une vie très particulière. J'ai été appelé alors que je n'étais qu'un petit garçon. J'avais 7 ans lorsqu'un signe visible et audible me fut donné. Une colonne de feu dans un buisson juste ici, sur le Utica Pike. Mon père, qui travaillait pour Monsieur Wavan, venait de mourir. Vous avez lu le livre, vous connaissez l'histoire. Et depuis ce moment-là, puis à la rivière, elle apparut visiblement devant les gens. Et maintenant, des photographies en ont été prises de nombreuses fois, et cela se trouve dans la salle des arts religieux à Washington, D.C. Tout droit réservé, du seul être surnaturel qui ait jamais été photographié, et cela a été prouvé scientifiquement. C'est la même colonne de feu, ayant exactement la même apparence que celle qui conduisit Israël hors d'Égypte. Je crois que c'est Jésus-Christ, sous une forme spirituelle, dans sa fonction de Fils de Dieu. Car il fut appelé Fils de l'homme quand il vint la première fois. Maintenant il est appelé Fils de Dieu. Dans le millénium, il sera Fils de David. Il est venu en tant que Fils de l'homme, comme prophète, selon ce qui avait été annoncé. Maintenant, il est Fils de Dieu surnaturel, dans le glorieux millénium qui doit venir et sera Fils de David, assis sur le trône de David. Tous les lecteurs de la Bible savent que c'est une promesse que Dieu a faite à David de susciter son Fils pour s'asseoir sur son trône. Dans ce ministère particulier et étrange, j'ai été appelé par toutes sortes de noms, allant de Dieu à celui d'un démon. C'est toujours ainsi. C'est ce que cet archevêque de l'Église catholique m'a dit l'autre soir au cours de la discussion là-bas. Il me dit, frère Branham, Jean-Baptiste s'est clairement identifié lui-même dans les Écritures comme étant celui dont avait parlé le prophète Ésaïe. De même, votre ministère est clairement identifié dans l'Église. Les luthériens sont dans la Bible. Ils reconnurent Luther. Les Wesleyens, à leur tour, reconnurent Wesley. Mais qu'en est-il des pentecôtistes? Ils errent, ne sachant où aller. Je répondis, monsieur, j'apprécie cela. Cet homme ne m'avait jamais vu de sa vie. Et à ce moment-là, l'esprit tomba sur la dame et parla, identifiant la même chose. Maintenant, pour être honnête avec le message que j'apporte ce matin, je dirais que je n'en sais rien. Je lui dis, monsieur, je ne pourrais pas dire cela. C'est une grande chose à dire. Il semble que c'est ainsi. Mais je sais une chose, c'est que quelque chose s'est passé. Sans aucun doute, Toutes ces choses ont été prouvées scientifiquement de nombreuses fois, tout autour du monde. Cela ne peut être un mythe. C'est la vérité. Qu'est-ce? Laissez-moi vous dire avant d'entrer dans le sujet que je ne sais rien. Et je n'oserais pas bouger avant d'avoir entendu celui qui m'a parlé dans le passé et qui m'a dit ces choses. Souvenez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est jamais identifié lui-même comme le Fils de Dieu. Il disait, c'est vous qui l'avez dit, c'est à cette fin que je suis né, etc. Mais il ne s'est jamais identifié lui-même. Et maintenant, c'était la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ dans une forme spirituelle. Le croyez-vous? Le Logos qui est sorti de Dieu. Et quand il était sur la terre, il déclara, je viens de Dieu et je m'en vais à Dieu. Nous le savons tous. Et après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Saul de Tarse se rendit à Damas pour persécuter les chrétiens. Car ils enseignaient des choses contraires à l'enseignement qu'il avait reçu. C'était un grand combattant sous Gamaliel. Dans leur faculté et monastère, il comptait parmi les éminents docteurs de ce temps-là. C'était un homme considéré, le gardien de l'Église. Et c'est là qu'une grande lumière, de nouveau la colonne de feu, le jeta à terre au milieu du jour. Et le voix dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Maintenant, si vous faites attention, quand Paul ou Saul se releva, il dit, « Seigneur, qui es-tu ? » Or, cet homme étant juif, ne l'aurait certainement pas appelé Seigneur si cela n'avait été quelque chose qui représentait Dieu. Ainsi, c'était la même colonne de feu. Jésus avait dit, « Je vais à Dieu, je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. » Il était à nouveau là sous la forme d'une colonne de feu. Il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes, et il te serait difficile de regimber contre les aiguillons. » Et nous réalisons que lorsque l'apôtre Pierre, à qui les clés furent données pour édifier l'Église, se trouvait en prison, c'est cette même colonne de feu qui passa à travers les barreaux, ouvrait les portes de la prison, et fit sortir Pierre mystérieusement, sans même déranger les gardes. Pour moi, c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi, vous pourrez toujours reconnaître ce qui en est par la nature de la chose. Tout se reconnaît à sa nature, à ses fruits. Maintenant, j'aimerais vous demander d'observer le genre de fruits que porte cette lumière qui est Dieu. Parce qu'elle retourne toujours à la parole de Dieu et la confirme. Elle prêche la parole de Dieu et Dieu confirme cette parole matériellement devant vous. Il doit y avoir quelque chose là derrière. Des gens m'ont appelé un prophète. Je ne m'appelle pas ainsi, parce que je n'oserais pas le dire. Mais je peux dire ceci, c'est que le Seigneur m'a laissé voir des choses à venir, dire des choses qui sont arrivées, qui arriveront, ou qui sont en train d'arriver. Et pas une seule fois, sur des dizaines de milliers de fois, il y a eu d'erreur. Tout ce qu'il a prédit est arrivé. Nous le savons tous. S'il y a ce matin une personne dans cet auditoire visible ou n'importe où ailleurs qui puisse dire qu'une seule fois cela a failli, vous avez la liberté de vous lever et de le dire. Mais si tout le monde sait que chaque fois, sur des milliers de fois, c'était parfaitement juste, dites Amen.
Amen.
Et ce serait la même chose dans le monde entier. Quelque chose est sur le point d'arriver. Dieu n'envoie jamais ces choses sans raison. Je viens de penser que je porte ce matin, je l'inscris ici sur l'une de mes notes, que je porte une paire de boutons de manchette. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cette vedette de cinéma qui s'appelle Jane Russell, dont la mère est pentecôtiste. Danny Henry est son cousin Germain, l'enfant de la sœur de sa mère. Il était baptiste et se trouvait à la Réunion, une réunion des hommes d'affaires, à Los Angeles, en Californie, il y a 2 ans. Je venais à peine de terminer une puissante et vigoureuse déclaration que le surveillant, les surveillants généraux des assemblées de Dieu, descendant d'un balcon, arriva sur la plateforme pour déclarer « Je ne crois pas que c'est ce que Frère Branham voulait dire. » Je dis « C'est bien ainsi, monsieur, c'est ainsi, dit le Seigneur. » C'était au sujet de l'épine de cet âge. Et à peu près à ce moment-là, cet homme, qui est un homme d'affaires, son frère est, il était là-bas, prenant des photos pour la télévision. Son frère est responsable du service des routes en Californie. Ainsi, Danny Henry s'avança, après la fin de la réunion, monta sur l'estrade où étaient assis tous ces hommes et va directement vers moi. Il passa ses bras autour de moi et prononça ces paroles. « Frère Branham, j'espère que ceci ne paraît pas sacrilège, mais on pourrait faire de ceci le chapitre 23 de l'Apocalypse, alors qu'il y a seulement 22 chapitres dans ce livre. » Il dit « J'espère que cela ne paraît pas sacrilège. » À peine venait-il de dire ceci, il était baptiste et ne savait rien du surnaturel. Il se mit à parler dans une langue étrangère, tandis qu'il m'entourait encore de ses bras. Et quand il eut terminé de parler en langue, une dame de couleur, assez forte, qui était assise juste devant moi, se leva et dit, « Cela n'a pas besoin d'être interprété. Je viens de Shreveport, en Louisiane, ou de Baton Rouge, en Louisiane. C'est véritablement du français. » Victor Ledieu, qui était français, était aussi assis là, et il dit, « Certainement, je suis français. » Et c'était véritablement du français. Je dis, attendez une minute. Écrivez ce qu'il a dit. Faites-le, avant de dire quoi que ce soit. Écrivez ce que vous avez dit et montrez vos notes. Et ainsi, l'un à l'autre l'écrivirent. Et même la ponctuation était semblable. Amen. À peu près au moment où ils apportèrent leurs notes, un homme blond, encore jeune et en bonne façon, s'avança venant du fond de la salle, car il n'y avait pas assez de place pour qu'il puisse s'asseoir. Il était resté debout au fond. Il s'avança et dit, un instant, je vais aussi donner mes notes. Il ajouta, je suis interprète à l'ONU pour le français. J'aimerais laisser mes notes. Et les trois notes en français concordaient parfaitement entre elles. Voici ce qu'il était dit. C'est la traduction des notes originales. C'est la note d'Henry lui-même. Il l'avait prise dans sa poche. Bien sûr, tu serais allé parmi les hommes d'affaires chrétiens, etc. Voici. Parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin le plus difficile, parce que tu as marché de ton propre gré, que tu as pris la décision qui convenait et qui est mon chemin. À cause de cette importante décision, voici qu'une très grande portion du ciel t'attend. Quelle glorieuse décision a été la tienne. Elle est en elle-même ce qui donnera une immense victoire qui s'accomplira dans l'amour divin. Cet homme a signé ici. La déclaration ci-dessus a été interprétée par de Danny Henry prophétisant au sujet de Frère Branham, a été faite par trois témoins à la cafétéria à Los Angeles, en Californie. Or, ce même homme qui a donné cette prophétie, sans savoir ce qu'il disait, se trouvait à Jérusalem il y a environ un mois. Il a eu le privilège d'aller là-bas et de s'allonger dans la tombe où Jésus avait été enterré après sa mort. Et tandis qu'il était couché là, il dit qu'il s'est mis à penser très fort à moi et qu'il a commencé à pleurer. Il a pensé... Combien ça a dû être difficile pour Frère Branham de prendre position contre le monde, ces choses et toutes les églises. Il était dit une fois au sujet du ministère de Billy Graham, nous pouvons le reconnaître, parce que toutes les églises lui sont favorables, de même pour Henri Roberts, parmi les pentecôtistes. Mais qu'en est-il quand quelque chose est apporté qui est contraire à l'enseignement que les gens ont reçu? C'est Dieu. Le bâton favori de Danny, c'est de tailler de petites pierres. Il est allé à l'endroit où l'on dit que la croix avait été dressée. Comme il était seul, il brisa un petit morceau de rocher et le mit dans sa poche comme souvenir. Rentré à la maison, il m'en a fait une paire de boutons de manchette. Et chose surprenante, quand il les a faites, la pierre paraissait tachée de sang et chacune d'elles était traversée par un chemin étroit et droit. Maintenant, c'est peut-être simplement voyez-vous, quelqu'un d'autre ne l'aurait peut-être pas remarqué, mais pour moi, c'est un honneur à cause des choses que je crois. Je crois que tout a une signification. Maintenant, quoi que le Seigneur est, si ceci n'est pas ce qui était prophétisé dans Malachie 4, et aussi dans Luc 17, et dans beaucoup d'autres passages des Écritures qui doivent arriver en ces derniers jours, puis dire ceci pour terminer, cela a posé le fondement pour cet homme quand il viendra. Ainsi, je suis très reconnaissant que le Dieu Tout-Puissant, s'il en est ainsi, m'ait laissé faire un petit quelque chose avec mon peu d'instruction, afin de montrer ma reconnaissance pour son amour pour moi, mon amour pour lui, et notre amour pour les autres. C'est pourquoi j'aborde ce sujet de mariage et divorce avec sincérité. Puisse Dieu être miséricordieux envers nous tous. Et maintenant, écoutez attentivement. Sœur, ne vous levez pas pour sortir. Restez tranquillement assise un instant. Et vous, frères, faites la même chose. N'arrêtez pas vos appareils là-bas qui sont branchés pour cette retransmission. Ne le faites pas. Restez tranquille pendant quelques minutes, jusqu'à ce que tout soit terminé. Écoutez attentivement. Si vous n'êtes pas d'accord, inscrivez les passages de l'Écriture que j'utilise, et ensuite étudiez-les dans un esprit de prière avant de prendre une décision. Que Dieu nous aide, tandis que nous essayons d'aborder ce sujet. Il se peut que ce soit un peu long. Je ne veux pas que vous soyez pressés. Prenez votre temps, faisons-le tous, et étudions vraiment à fond la parole de Dieu, comme nous savons le faire. Commençons avec Matthieu, chapitre 19. Et je pense, depuis le verset 8 du chapitre 19. C'est là que j'aimerais commencer. Je vais peut-être commencer déjà au verset 1er et lire jusqu'au verset 8 du chapitre 19. Maintenant, souvenez-vous que les choses que je dis doivent venir de la parole de Dieu. Cela ne peut pas être ma propre pensée, car ma pensée est comme celle de n'importe qui d'autre. Mais cela doit être en continuité avec la parole de Dieu. Souvenez-vous que Dieu garde tout dans la continuité. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le croyez-vous?
Amen.
Il est le même. Maintenant, je vais lire depuis le chapitre 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Je m'arrête là pour vous permettre de remarquer qui cherchait à l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, les fit mâles et femelles? » Et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, aide-nous, ô Dieu. Ce passage de l'Écriture, Jésus fut placé devant cette question au tout début de son ministère, ainsi que Moïse. C'est une question primordiale dans le cœur du croyant. Le pécheur, lui, ne s'en soucie point. Mais en est une pour les croyants parce qu'ils essayent de faire tout leur possible pour vivre droitement devant Dieu. C'est pourquoi, si une question se pose au sujet de la religion, c'est bien celle qui traite du mariage et du divorce. Pourquoi? Parce que c'est ici la cause du péché originel. C'est là que le péché a commencé, et c'est la raison pour laquelle cette question est soulevée chaque fois parce que c'est le point de départ du péché. Je n'aurai pas le temps maintenant d'expliquer toutes ces choses, mais je serai heureux de répondre à votre lettre ou de faire tout mon possible à ce sujet. Nous avons des brochures qui traitent cela et qui répondent à de nombreuses questions. Nous avons même des coupures de journaux ici pour prouver ceci. Nous savons que c'est Ève, la pomme qui était censée manger, et ce n'est même pas scripturaire. Maintenant, on prétend que c'était un abricot. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Elle commit adultère. Ce qui produisit le premier enfant, Caïn, qui était le propre fils de Satan. Car en lui se trouvait le mal. Le mal n'est pas venu à travers Abel. Le fils de Satan était Caïn. Je connais votre question maintenant. Ève a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est exact. Vous pourriez prendre la femme la plus corrompue de la ville et le pire homme. S'il devait avoir un bébé, il viendrait du Seigneur, parce que Dieu a des lois. Et l'une de ces lois, comme le soleil qui se lève, si vous mettez de l'ivraie dans un bon champ, elle croîtra. Assurément, parce que c'est la loi de Dieu. Quand une semence est plantée, elle doit croître. Et rien ne peut faire grandir la vie si ce n'est Dieu, parce que cela opère d'après ses lois. C'est pourquoi, quand la mauvaise semence fut plantée dans le sein d'Ève, elle dut produire. Parce que c'était la loi de Dieu sur la reproduction. Elle ne pouvait rien faire d'autre que produire cela, et cela devait venir de Dieu. C'est pour cette raison que les gens disent parfois que les petits bébés qui ne naissent pas de parents chrétiens sont perdus. Le sang de Jésus-Christ rachète l'enfant, peu importe de quelle manière et dans quel milieu il est né. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le petit enfant ne peut pas se repentir parce qu'il n'a pas de motif de se repentir, et que c'est le péché du monde qui fut enlevé par le sang de Christ. Les bébés vont au ciel. Il s'agit du bébé du péché originel. C'est pourquoi c'est une question. Quand on aborde les grands problèmes de la Bible, la première question que l'on pose est celle-ci, qu'en est-il du mariage et du divorce? Maintenant, comme toujours, c'est une question que posent encore les gens aujourd'hui, comme ce fut le cas du temps de Jésus et de Moïse. Cela a toujours été ainsi, et aujourd'hui encore, c'est une question qui se pose pour les gens, parce qu'ils veulent connaître la vérité. Mais quand il y a une question, il doit aussi y avoir une réponse. Par conséquent, comme je l'ai dit cette semaine, il doit y avoir une réponse correcte. Et si nous recevons une réponse, quelle que soit la question, et qu'elle ne soit pas juste, alors nous savons qu'elle était fausse. Mais il y a, si vous désirez connaître la vérité, alors vous continuez à demander jusqu'à ce que véritablement, il était répondu à la question. Et étant donné que c'est une question biblique, il devrait y avoir une réponse biblique. Amen. Comme je l'ai dit, si je voulais me diriger vers l'Est ce matin, ce que j'aurais de mieux à faire serait de trouver un point de repère dans les champs. Là, je pourrais aller directement vers l'Est. Maintenant, si quelqu'un disait, Frère Branham, l'Est est ici. Cela pourrait être l'Est. Mais en réalité, c'est le Nord-Est. Ainsi, je passerai à côté de l'objet que je cherchais. Je devrais revenir en arrière, sachant que c'était faux. Et si quelqu'un disait, Frère Branham, allez dans cette direction, à votre droite. C'est aussi l'Est, semble-t-il. Mais en fait, c'est le Sud-Est. Ainsi, j'aurais manqué l'objet que je cherchais, parce que je serais allé au-delà des limites de la voie parfaite et directe. Dans ce cas, nous avons deux conceptions sur le mariage et le divorce. L'une d'elles dit qu'un homme ne peut se marier qu'une fois à moins que sa femme soit morte. Et c'est l'une des questions. Mais si vous suivez cela, vous allez trop loin. Et l'autre dit, oh, si la femme ou le mari, soit l'un, soit l'autre, a commis adultère, n'importe quel des deux peut être répudié et se remarier. Vous allez trop loin aussi. Ainsi, voyez-vous, ce n'est ni le Sud-Est, ni le Nord-Est, nous voulons exactement l'Est. Amen. Vous manquez de référence de l'Écriture quand vous allez dans cette direction-ci, et vous manquez de référence de l'Écriture quand vous allez dans cette direction-là, Nous voulons connaître les passages de l'Écriture qui concordent entre eux et quelle est la vérité à ce sujet. Chacune prend un chemin différent et omet de donner la réponse correcte, mais il doit néanmoins y avoir une réponse. C'est pareil à ce que nous avons aujourd'hui. Il y a deux grandes écoles de doctrine dans l'Église. L'une d'elles, c'est le calvinisme. L'autre, l'arminianisme. L'une est basée sur la loi et l'autre sur la grâce. Et nous découvrons que les gens qui croient dans la grâce, les calvinistes, disent « Dieu soit béni, cela ne fait rien de fumer, cela ne me fait rien de boire, je peux faire ces choses, j'ai la sécurité éternelle. » Puis nous voyons l'autre côté, celui des légalistes, qui disent « Oh, j'aimerais l'engueuler, j'aimerais lui montrer de quel bois je me chauffe, mais je suis un chrétien, je dois rester tranquille. » Ainsi, vous vous retrouvez sur deux routes différentes, et ni l'une ni l'autre n'est juste. C'est dur de dire cela, mais c'est la vérité. Nous nous retrouvons sur deux routes différentes. L'une va dans une direction et l'autre dans l'autre. Maintenant, voyons où est la vérité. Maintenant, écoutez et voyez si ceci ne vous paraît pas raisonnable. Par exemple, si je me préparais à partir outre-mer, je prends maintenant l'exemple de ma propre famille. J'appellerai ma femme et lui dirai « Je pars outre-mer, chérie. » Maintenant, voici le côté légaliste. « Ma chérie, je vais te mettre en face de la loi. Si tu flirtes avec un homme pendant mon absence, quand je reviendrai, je divorcerai avec toi. Je ne veux pas que tu fasses les yeux doux à quelqu'un et que tu flirtes. As-tu compris? Je suis ton mari. Si tu le fais, je te répudierai à mon retour. » Alors elle s'avance, me prend par la cravate et me dit « Mon brave homme, je veux te dire quelque chose. » Voyez-vous? Si tu fais les yeux doux à une femme, ou que tu sortes ou flirtes avec l'une d'elles, je te répudierai à ton retour. Alors, pensez-vous que ce serait un foyer heureux? Voilà les légalistes. Très bien. Maintenant, de l'autre côté, si je vais outre-mer et que je fasse une faute, je dirais, eh bien, maintenant, regarde, je vais sortir avec cette femme. Oh, c'est en ordre avec ma femme, cela ne la touche pas. Ma femme dira à son tour, je sortirai avec cet homme, c'est en ordre avec Bill, peu lui importe. Si cela ne me touche pas, c'est alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je n'aime pas cette femme comme je le devrais. Et si cela ne la touche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. C'est ma femme. Je ne veux pas qu'un autre homme fasse de foi avec elle. C'est ma femme. Maintenant, ce qu'il y a de correct là-dedans, c'est que les deux ont une part de vérité, mais pas l'exacte vérité. Maintenant que je pars outre-mer, désireux d'agir correctement, je réunis ma petite famille et nous prions ensemble. Je les remets à Dieu et eux font de même vis-à-vis de moi. Et après cela, je pars. Or, je sais qu'elle m'aime. J'ai confiance en elle. Et je l'aime. Elle a confiance en moi. Aussi longtemps que je l'aime ainsi, elle n'a pas à craindre que je sorte avec une autre femme. Aussi longtemps qu'elle m'aime comme elle le faut, je n'ai pas besoin de penser qu'un autre homme pourrait sortir avec elle, parce que c'est ma femme et que je la crois. Je crois que si je faisais effectivement quelque chose de faux, que je fasse une faute, que je sorte avec une femme et qu'au retour je lui confesse et lui dise « Mesdames, je n'ai pas voulu faire cela, j'ai simplement été pris dans un piège. Cette femme est arrivée en courant vers moi. Puis elle m'a saisi par le bras et a commencé à faire telle et telle chose. Je crois qu'elle comprendrait. Je crois qu'elle me pardonnerait. Mais je ne le ferai pour rien au monde, parce que je l'aime. Bien qu'elle me pardonnerait, je ne le ferai pas. Je ne voudrais pas lui faire de mal pour rien au monde. Bien que je sache qu'elle me pardonnerait, je ne veux pas lui faire de mal. Et c'est ainsi avec Dieu. C'est un amour philéo, qui est un amour humain, peut amener un homme à avoir de tels sentiments à l'égard de sa femme, qu'en serait-il de l'amour agapao, le mot grec signifiant l'amour de Dieu? Comment cela me ferait-il agir vis-à-vis de Jésus-Christ? Aussi longtemps que je désire le faire, j'ai à cœur de le faire. Je dis qu'aussi longtemps, j'ai à cœur de le faire, je vais le faire. Le légalisme ne me laissera pas agir ainsi. C'est la crainte de la punition qui m'empêche de le faire. Mais l'authentique vérité à ce sujet, c'est que lorsque l'amour de Dieu entre dans votre cœur, vous avez le désir de le faire. C'est la vérité à ce sujet. Il y a les deux écoles, pas le légalisme ou le calvinisme. Ce sont les deux. De même, nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de dénominations différentes. Il y a l'Église catholique, l'Église protestante, chacune dit quel est le chemin. Voyez-vous, nous avons le chemin, nous sommes la vérité. Puis les méthodistes disent, nous avons la vérité. Les baptistes disent, nous avons la vérité. Eh bien, en ce qui me concerne, aussi longtemps qu'ils ont de tels sentiments, ce n'est pas ainsi. Parce que Jésus a dit, je suis la vérité.
Amen.
Voyez-vous, c'est pourquoi, comme je le disais dans mon sermon hier soir, c'est lui qui est l'endroit où Dieu a placé son nom. La seule place d'adoration. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes protestant. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes catholique. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes méthodiste, baptiste ou pentecôtiste. Vous êtes un chrétien parce que vous avez été baptisé en Jésus-Christ par le Saint-Esprit.
Amen.
Non par nom. Il y a une fois un Seigneur, un baptême, et c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau vous introduit dans une communauté. Le baptême du Saint-Esprit vous introduit en Christ. Voilà la vérité. Nous avons aussi deux conceptions au sujet du mariage et du divorce. Maintenant que notre Seigneur nous a révélé, dans ces derniers jours, le mystère des sept sceaux de sa parole, maintenant, il se peut que pour beaucoup d'entre vous, ce soit du grec. Mais mon Église comprend. Eh bien, quand vous avez entendu parler des visions et de ce qui est arrivé, et la vérité et la question est une question biblique. Nous sommes invités ici à croire qu'il doit y avoir une véritable réponse à toute chose tenue cachée depuis la fondation du monde. Et la Bible prophétise et dit qu'en ce jour-ci, ces secrets seraient révélés. Apocalypse 10 déclare que lorsque le septième ange sonnerait de la trompette, le messager de Laodicée, les mystères de Dieu seraient révélés. Et ceci est le dernier âge, celui de Laodicée. Voyez, au cours de ces 15 ans de réveil et davantage, pas une seule dénomination n'en est sortie. Luther, le réveil de la sortie d'une dénomination. Wesley, de la sortie d'une dénomination. Alexander Campbell, de la sortie d'une dénomination. Tous ces autres grands, John Smith, etc., encore des dénominations. Ben, Moody, c'était tout le temps ainsi. Mais ici, il y en a eu un, généralement le réveil ne dure qu'environ 3 ans, mais celui-ci dure depuis plus de 15 ans, et pas une seule dénomination n'en est sortie. Car c'est maintenant le temps du grain. Il n'y a plus de balles. Après la disparition de la balle, c'est le grain, la semence. Dieu est prêt. S'il n'est pas en train de le faire maintenant, il va appeler une église à la perfection par sa parole. Jésus-Christ.
Amen.
Remarquez, il doit y avoir une réponse quelque part. Étant donné que le mystère de Dieu des sept sceaux, combien comprennent cela? Levez la main. Voyons, je pense que la plupart font partie de notre assemblée. Écoutez, si ce n'est pas le cas, les brochures qui traitent de ce sujet vont bientôt sortir. Nous avons certaines brochures qui parlent de cela maintenant. Jésus, dans notre texte, nous invite à retourner au commencement pour obtenir la véritable réponse scripturaire. Quand il fut confronté avec ceci, il y avait deux questions. Le prêtre lui dit, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Et Jésus répondit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ils dirent alors, Moïse nous a prescrit une lettre de divorce, et de la répudier pour n'importe quel motif. Il répondit, Moïse a fait cela à cause, je laisse cela tel quel un instant, à cause de la dureté de votre cœur. Mais, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est comme aujourd'hui la question de la paix mondiale. Vient-elle par la politique, l'union des nations? Je vous dirais non. Cela a toujours échoué et cela échouera de nouveau. Mais il reste une véritable réponse à la question. Y aura-t-il la paix sur la terre? Oui! Quand le péché aura disparu de la terre, il y aura la paix. Mais jusque-là, il n'y aura pas de paix. Une nation se dressera contre une autre et un royaume contre un autre. Dieu nous a donné un remède contre le péché. Écoutez attentivement maintenant. Dieu a donné un remède pour débarrasser la terre du péché. Mais l'homme de la terre ne veut pas accepter le remède de Dieu. Dieu nous a donné un remède et la règle à suivre pour épouser nos femmes et vivre avec elles. Mais les hommes ne veulent pas accepter le remède de Dieu. Ils ne veulent pas accepter sa parole à ce sujet. Jésus qui a dit ceci, ceci nous rappelle les paroles qu'il a prononcées, les cieux de la terre failliront, passeront, mais pas ma parole. La question, la véritable réponse à laquelle Jésus veut que nous retournions, c'est au commencement. Alors, ce doit être dans la Genèse, car le mot Genèse, c'est le chapitre semence pour chaque question de la Bible. Et vous devez toujours retourner à la semence pour voir quelle espèce de semence est dans le champ et pour découvrir quelle sera votre récolte. Ainsi, quelle espèce de semence est semée? La Genèse étant le chapitre semence, nous retournons à la Genèse. Jésus nous a ramenés au commencement à cette écriture. Maintenant, souvenez-vous, c'est quand le temps a commencé. Avant, c'était l'éternité. Maintenant, notre question était, remarquez, si nous retournons au commencement, maintenant, ne manquez pas ceci. Et c'est la raison pour laquelle je veux parler lentement. C'est afin que ceux qui écoutent par téléphone et que la bande le reproduise fidèlement. Si Jésus a dit, retournez au commencement, à ce moment-là, il n'y avait qu'une paire de chaque espèce sur la terre. Il y avait un Adam, une Ève. Ils furent unis par Dieu seul. Un cheval femelle et un mâle. Un perroquet femelle et un mâle. Au commencement, où il nous a dit de retourner, il n'y avait qu'une paire de chaque espèce. Est-ce vrai? Puis nous découvrons qu'au commencement, tout marchait dans un ordre parfait et en harmonie avec Dieu. Rien n'était en désordre. Tout dans le ciel est toujours en ordre. Toutes les étoiles, les galaxies, le système solaire, tout est parfaitement en ordre. Si l'une de ces choses allait changer de place, cela interromprait tout le programme. Maintenant, écoutez. Voyez-vous une interruption compromet toute la marche. Quand les êtres humains étaient dans la continuité avec Dieu, alors qu'il y avait un homme et une femme, cette femme pécha. Et de ce fait, cela jeta tout le programme terrestre hors de la continuité avec Dieu. C'est pourquoi un mot ajouté à ce livre, ou un mot retranché de celui-ci, jette un chrétien hors de la continuité avec Dieu. Jette l'Église hors de la continuité avec Dieu. Jette la famille hors de la continuité avec Dieu. Chaque croyant peut être jeté dehors pour n'avoir pas accepté chaque parole de Dieu. Ainsi, c'est la femme qui fut la cause de la division de ce beau foyer. Ce n'était pas un chérubin qui a nui à la terre. Ce n'est pas Adam qui a brisé le foyer. Ce n'est personne d'autre qui a brisé le foyer et jeté le tout hors de la continuité, si ce n'est une femme, Ève. Et c'est ici, au commencement, que la continuité dont Jésus a parlé fut brisée. Jésus a dit, au commencement, Dieu fit un mâle et une femelle de chaque espèce. Et quand cette femme, par la femelle du cheval, ni la femelle du chien, mais la femme, elle brisa la parfaite continuité du programme de Dieu sur la terre et jeta tout dans la mort. La femme, pas l'homme, brisa l'alliance. Elle brisa l'alliance. Pourquoi? Parce qu'elle alla au-delà des limites de la parole de Dieu. Maintenant, si elle a brisé son alliance avec son mari, elle a aussi brisé son alliance avec Dieu. Ainsi, parce qu'elle brisa l'alliance avec Dieu, elle a brisé avec son mari. Et quand vous brisez votre promesse et votre alliance vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est cela qui a produit tellement de membres d'églises illégitimes. Parce qu'un groupe d'hommes s'est réuni et a dit, eh bien, cela ne voulait pas dire ceci. Et cela jette toute l'organisation hors de la continuité avec la parole. Ils disent, oh, nous ne croyons pas cela. Le docteur Jones a dit que ce n'était pas ainsi. Mais aussi longtemps que Dieu a dit que c'était ainsi, il a dit que toute parole d'un homme soit mensonge et la mienne la vérité. Cela brise la continuité. La continuité étant brisée, nous voyons que la corde du salut fut brisée. De même, la ligne du temps fut brisée. L'alliance fut brisée. Tout tomba en morceaux. Quelle en fut la cause? Une femme. C'est ce qui brisa l'alliance. Maintenant, si vous voulez lire cela, vous pouvez le lire dans Genèse 3. Or, c'est à ce moment-là qu'il fut donné à l'homme de dominer sur la femme par la parole de Dieu. Elle n'était plus égale à l'homme. Elle était auparavant, vous le savez. Mais lorsqu'elle faillit à la parole de Dieu, Dieu fit un homme pour dominer sur elle. Genèse 3:16, si vous voulez inscrire. Elle était plus égale à l'homme. Elle était une violatrice de la parole de Dieu. Ne la voyez-vous pas en l'église d'aujourd'hui, la violatrice de la parole de Dieu, ce qui la jeta complètement dans la continuité, et c'est ce que l'église a fait, la jeta une mort spirituelle surtout. Maintenant, vous comprenez pourquoi je mets l'accent sur ces choses comme je le fais. C'est la vérité. Ce sont des faits bibliques. Remarquez. Pourquoi a-t-elle fait une telle chose? Comment cette femme belle est parfaite? J'ai vu une photographie, je crois que c'était en Grèce, d'un artiste qui avait peint Ève. C'était la chose la plus horrible que vous puissiez jamais voir. Cela montre à quoi un esprit charnel peut regarder. Ce n'était pas ainsi, elle était belle. Parce que c'était une femme parfaite. Une vraie femme. Remarquez, pourquoi a-t-elle fait une telle chose? Étant dans cette classe élevée. Elle était juste avec l'homme, égale à lui. Mais nous savons tous maintenant qu'elle a perdu son égalité avec l'homme. Quand elle a péché, et Dieu a dit, l'homme dominera sur toi dès maintenant. C'est l'Écriture. Si vous le désirez, nous pourrions le lire. Je vous donne les passages de l'Écriture pour gagner du temps à cause de cette importante retransmission à travers le pays. Et pour que vous puissiez le lire vous-même, remarquez la raison pour laquelle elle a fait cela. Comment Satan est-il parvenu jusqu'à elle? Savez-vous que Satan était égal à Dieu à un moment donné? Assurément. Il était tout sauf un créateur. Il était tout et se tenait à la droite de Dieu dans les cieux. C'était un des principaux chérubins. Remarquez, La raison pour laquelle elle a fait ceci, c'est qu'elle n'était pas de la création originale. Elle n'était pas de la création originale de Dieu. Elle est un sous-produit. C'est pourquoi, au commencement, de même que Jésus s'y réfère, elle n'était pas un être original créé par Dieu. Elle était le sous-produit d'un homme. Lorsque Jésus s'y réfère au commencement. Souvenez-vous qu'Adam était à la fois masculin et féminin dans la création originale. Il était un. Mais ensuite, il fut séparé par une cause. Remarquez. Mais un sous-produit est remarqué de tout ce que Dieu avait créé. De tous les animaux et tout le reste, elle était la seule conçue ainsi. Toutes les autres femelles étaient dans la création originale. Toutes les autres femelles étaient dans la création originale. Mais Ève n'était pas dans la création originale. Voyez-vous, il devait en être ainsi. Nous y reviendrons plus tard. Remarquez, de la création de laquelle elle était, pas dans l'original, mais en tant que sous-produit. Et dans cette création, il y a, maintenant je ne veux pas blesser vos sentiments, mais je désire vous dire une vérité, restez simplement dans le calme, comme jusqu'ici. Il n'y a rien de conçu qui soit aussi trompeur qu'une femme. Il ne peut rien y avoir d'autre. Il n'y a rien d'autre qui fût conçu pour être ainsi. De même, il n'y a rien qui puisse être trompé aussi facilement qu'une femme. La chute prouve que cette déclaration est vraie. La chute au commencement. Elle n'était pas dans la création originale. Elle était dans Adam, mais elle ne formait pas par elle-même le sexe féminin au commencement. Elle fut faite comme sous-produit. Il n'y a rien de conçu qui puisse tromper et être trompé aussi facilement qu'une femme. Il n'y a rien de conçu qui puisse s'avilir autant qu'une femme. Pensez-y maintenant. Il n'y a rien de conçu dans toute la création qui puisse s'avilir autant qu'une femme. La femme peut déchirer complètement le cœur d'un homme, plus facilement que tout ce qui existe au monde. Laissez seulement cette jolie femme courir avec un autre homme, et regarde ensuite son mari assis là avec ses enfants, les larmes coulant de ses yeux. Elle est conçue ainsi. Elle est conçue pour faire ceci. Il n'y a pas de truie, ni de chienne, aucun animal conçu de la sorte et qui puisse s'avilir autant qu'elle. C'est vrai. Par égard pour mes sœurs, je veux simplement que vous observiez. Aucun animal ne peut être immoral. Vous pouvez appeler une chienne une coureuse. Vous pouvez appeler un cochon une truie. Mais leur moralité est à un million de kilomètres éloignée de celle de beaucoup de stars d'Hollywood. C'est pour montrer jusqu'à quel point elle peut s'avilir. Elle ne peut pas. Pensez à ceci maintenant. Il n'y a rien au monde faisant partie de la création de Dieu qui puisse être immoral et s'avilir autant qu'elle. Vous dites, attendez une minute, l'homme, nous allons y arriver. Mais la femme doit dire oui. Remarquez, il n'y a rien de conçu qui puisse s'avilir autant et être aussi corrompu qu'une femme. Un chien ne le peut pas. Une truie ne le peut pas. Un oiseau ne le peut pas. Aucun animal n'est immoral et ne peut l'être. Car il n'est pas conçu de manière à permettre cela.
Une truie ne peut pas être immorale. Une chienne ne peut pas être immorale. Une femelle d'oiseau ne peut pas être immorale. Une femme est la seule chose qui puisse l'être. Maintenant, vous voyez où ça doit aller? Voyez-vous? Mais non, moi, là. Elle est celle qui a le pouvoir de dire oui ou non. Voyez-vous? Cela dépend de la position qu'elle veut adopter. Voyez-vous? Maintenant, nous pouvons voir ici clairement la semence du serpent, où elle est allée. Il n'y a qu'un endroit où il est pu aller. Si cela n'est pas l'évidence même, c'est que quelqu'un est aveugle. Voyez-vous, c'est là que cela devait aller. Remarquez, la raison pour laquelle les animaux ne pouvaient pas le faire, les femelles, c'est qu'elles étaient dans la création originale, alors que la femme ne l'était pas. Maintenant, nous allons revenir en arrière pour reprendre ceci et ensuite l'amener dans notre moderne. Elle seule est conçue pour la corruption et pour une vie impure. Une chienne ne le peut pas. Aucune autre femelle ne le peut. Seule la femme le peut. Une chienne ou n'importe quel autre animal, une fois par année, elle fait pour ses petits. Mais non pour un plaisir sexuel. C'est dans le but de mettre au monde des petits. La vieille truie, la vieille chienne, une fois par année, à un certain moment, c'est pour avoir des petits. Mais une femme est conçue pour le faire chaque fois qu'elle le désire. J'ai maintenant tracé certaines choses ici. Vous pouvez imaginer le reste. Une chienne ne le peut pas, une femme le peut. J'espère que le Saint-Esprit vous révèle la suite. Elle est la seule espèce de femelle qui soit faite plus jolie que le mâle. Il n'y a pas d'autre espèce ainsi. Dans toutes les autres créatures de Dieu, les mâles sont beaux, par exemple les animaux, les oiseaux, etc. C'est toujours le mâle qui est beau. Regardez le grand cerf. De beau bois, une bête majestueuse, et à ses côtés, une petite daine humble. Regardez le gros coq avec toutes ses belles plumes et la petite poule brune. Regardez les oiseaux, le mâle et la femelle. Pourquoi? Pourquoi en est-il ainsi de toutes les créatures de Dieu? Dans chaque espèce, c'est le mâle qui est le plus beau. Chez les moutons, les porcs, les chevaux, n'importe quoi d'autre, c'est toujours le gros mâle qui est le plus beau. De même chez les oiseaux. Mais dans la race humaine, c'est la femme qui est la plus belle. Et non l'homme. S'il l'est, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une semence croisée quelque part. Originellement, c'est ainsi. Pourquoi? Pourquoi cela est-il écrit ainsi? Pour tromper. Celui qui l'a conçu, Satan, continue d'exercer son influence sur elle en ces derniers jours. Laissez-moi m'arrêter ici un instant. Belle, saviez-vous que la première destruction du monde survint à cause de femmes belles? Quand les fils de Dieu dirent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes. Est-ce vrai? Avez-vous remarqué l'augmentation de la beauté des femmes aujourd'hui? J'ai vu la photographie de Pearl Bryan, qui est censée avoir été une fois la plus jolie femme du pays. Il n'y a pas d'adolescent dans cette école qui ne la surpasserait de beaucoup pour la beauté. L'augmentation de la beauté des femmes dans le temps est un signe de tromperie. À quel moment une église a-t-elle une meilleure apparence qu'aujourd'hui? Elle est représentée par de grands et beaux bâtiments, avec des millions de ceci et des millions de cela. Ne voyez-vous pas? Elle, la tromperie. Rien ne peut s'habiller comme elle. Elle est conçue pour tromper. Et Satan agit vraiment sur elle aujourd'hui, en ces derniers jours, parce qu'il est celui qui l'a modelée. Je pourrais le prouver maintenant en retournant directement au commencement. Qui a commencé à agir sur elle? Adam ou Satan? Dieu ou Satan? Voyez-vous, c'est son séducteur. C'est son arme principale pour jeter un homme dans la corruption. Étant jolie, elle peut influencer un homme de n'importe quel côté qu'elle désire. Frère, ce n'est pas le bistrot ici en bas qui détourne l'homme. C'est la jolie femme qui descend la rue en se dandinant à moitié habillée. C'est ce qui... Voilà le trompeur. Elle est mortelle avec cela. Absolument mortelle. Vous pouvez me questionner sur le fait que Satan soit son séducteur ou non. Mais c'est la vérité. Satan l'a conçue. Il le fait toujours. Laissez-moi vous montrer quelque chose dans l'Écriture. Je dois vous faire revenir à l'Écriture et vous pourrez ainsi en tirer vos propres conclusions, tandis que vous regardez cela aujourd'hui. Satan est celui qui met en vedette ce genre de beauté. Si nous observons, il était le plus beau de tous les anges du ciel. Est-ce vrai? Elle désira faire du ciel un endroit plus beau que le royaume de Michaël. Est-ce vrai? Alors, pour vous montrer que Caïn était son fils, celui-ci offrit une plus belle adoration. Il décora ses autels avec des fruits, des fleurs, etc. Est-ce vrai? C'était beau. Le péché est beau. Ce que nous appelons aujourd'hui la beauté. Et le péché trompe par la beauté. Vous ne pourriez jamais regarder une femme qui descend la rue et dire ce qui est dans son cœur. Voyez-vous, mais je voulais vous dire ces choses afin que vous puissiez voir comment Satan est celui qui l'a modelé. C'est exact. Son propre fils, Caïn, l'a prouvé. Elle est belle afin de pouvoir tromper. Le monde est beau afin de pouvoir tromper. Je veux dire le cosmos, le régime du monde. C'est beau afin de pouvoir tromper de grands et beaux endroits, ainsi que le luxe. Un des prophètes Amos, quand il regarde en bas dans la ville et qu'il vit que c'était pareil à une Hollywood moderne, ses petits yeux devinrent plus perçants encore sous ses cheveux gris qui tombaient sur son visage. Il descendit là-bas avec un message et parla sévèrement contre cet endroit. Il dit, le Dieu lui-même que vous prétendez servir vous détruira. C'est vrai, le péché est joli. En représentant Judas comme un vieil alcoolique déambulant dans la rue, la bouche tordue, recouverte de mouches, etc. Non, Judas était bon, fort, un trompeur. Ce n'est pas cet homme qu'il faut surveiller autour de vous. Ce n'est pas le vieux fermier qui entre dans la tête qu'il faut surveiller autour de votre femme. C'est ce roublard. C'est lui le fripon. Le péché est beau aux yeux du monde. Mais Dieu n'est pas représenté dans ce genre de beauté. Le saviez-vous? Dieu est représenté dans le caractère. Un beau caractère. Dans la Bible, Ésaïe 53, si vous voulez inscrire certains passages, il y a de nombreux passages de l'Écriture inscrits ici en marge qui traitent de cela. Ésaïe 53, la Bible dit que notre Seigneur Jésus, que son aspect n'avait rien pour nous plaire, et qu'il était semblable à celui dont on détourne le visage. Est-ce vrai? Nous ne le voulions pas, parce qu'il n'était pas beau. C'était probablement un petit homme, aux épaules voûtées, aux teint coloré, qu'on n'aurait pas choisi comme conducteur. Il n'avait pas l'apparence d'un conducteur. Il parlait le langage de la rue, des gens simples, c'est pourquoi il n'avait pas l'apparence d'un grand érudit, vêtu de beaux habits. Il n'était qu'un homme ordinaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il venait se mêler aux gens, mais ils ne surent même pas qui il était. Il n'avait pas l'apparence d'un Dieu en action, ou de ce qui, selon notre idée, devrait représenter un Dieu. Mais il l'était pourtant. Avez-vous remarqué, quand l'Éternel Dieu dit à Samuel, « Va dans la maison d'Isaïe et oint l'un de ses fils roi pour prendre la place de Saül. » Les gens avaient choisi Saül, bien que Samuel ait essayé de les en dissuader. Il dit, « Ce n'est pas de la volonté de Dieu que vous ayez un roi, c'est lui votre roi. » Il ajouta, « Vous avez déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé? Vous avez déjà demandé de l'argent ou quelque chose d'autre pour vivre? » Ils répondirent, « Non, tu ne nous as jamais demandé l'argent, et tout ce que tu nous as dit au nom du Seigneur est arrivé. Mais nous voulons quand même un roi. A-t-il choisi Saül? Regardez ce que le monde a choisi. Regardez ce qu'Israël a choisi. Israël, les rois de Dieu, choisit un homme dont la tête et les épaules dépassaient tous les autres dans le pays. C'était un grand et bel homme. Il était toujours comme une mouche de longueur. Mais Dieu dit, « Je vais vous choisir un roi, selon mes goûts. » Ainsi il dit, « Samuel, je vais te dire qui c'est, mais va là-bas, c'est un des fils d'Isaïe. » Et Isaïe, sa femme et les autres regardaient autour d'eux et dirent, « Oui, notre fils aîné, c'est un grand et bel homme. Il serait tout à fait ce qu'il faut pour la couronne royale. Il est intelligent, instruit, c'est un homme bien. Je sais qu'il conviendrait tout à fait. Il a un vocabulaire choisi. » Quand ils amenèrent Samuel, prit le pot d'huile et s'avança vers lui. Mais il dit, « Non, l'Éternel le refuse. Ainsi il fit passer les sept fils, et l'Éternel les refusa tous. » Il dit, « N'y en a-t-il pas un autre ?»« Oh, répondit-il, oui, il y en a un. Il est là-bas en train de garder les moutons. Il ne fait que jouer de son instrument, chanter, extérioriser sa joie. Mais ce n'est qu'un jeune homme, aux épaules voûtées et au visage coloré. Je ne ferai jamais un roi. » Samuel dit, « Allez le chercher. » Et quand le prophète dit David s'approcher, il court avec l'huile, la versa sur sa tête et dit, c'est lui que Dieu a choisi. Pas la beauté, mais le caractère. Dieu regarde au caractère. L'homme regarde à la beauté naturelle. C'est trompeur. C'est pourquoi la femme reçut cette beauté pour tromper. Une belle femme, si elle ne l'utilise pas correctement, c'est une malédiction pour elle. Cela l'enverra en enfer plus rapidement que tout ce que je connais. Elle peut être jolie, bien sûr, aussi longtemps qu'elle reste avec son mari et qu'elle fait ce qui est juste, c'est en ordre. Mais elle peut prendre la même chose, et oh, combien elle peut tromper avec cela, car cela lui était donné dans ce but. Mais remarquez maintenant, Dieu est représenté dans le caractère. L'aspect de Jésus n'avait rien pour nous plaire, mais il n'y eut jamais de caractère comme lui sur la terre. Nous voyons aujourd'hui le caractère de l'Église. Satan et son groupe recherchant de grandes et belles églises, des choses belles. C'est à cela que le monde regarde aujourd'hui. Oh, quand le pasteur, le grand tel, s'avance pieusement, tel un prêtre revêtu de sa grande robe, etc. Ils appellent cela la beauté. Mais les véritables saints de Dieu recherchent le caractère de la parole confirmée. C'est ce que firent les saints ce temps-là lorsqu'ils virent Jésus. Ils n'avaient rien pour attirer les regards, mais ils dirent que Dieu était en lui. Ils dirent que Dieu était avec lui. Ainsi que Joab et ses personnages, à la vue de David, de sa petite stature, reconnurent quel homme était en lui. Ils dirent que Dieu était en lui, et sûrs qu'un jour, il allait venir au pouvoir. L'un tua les cinq frères de Goliath d'une main, l'autre tua 300 hommes, tandis que les femmes ramassaient des haricots pour le dîner, et que l'armée s'en était retournée. Il prit une lance et tua 300 hommes, des Philistins. Le caractère! Pourquoi il restait avec David? Il savait que l'onction était sur lui. Il savait qu'il allait venir au pouvoir. C'est une belle image de l'Église qui restera avec la parole. Nous savons qu'elle sera confirmée. Nous savons qu'elle viendra un jour au pouvoir. Bien que Saül David était un fugitif pour le reste de la nation, mais il est sûr qu'il allait arriver au pouvoir. Nous savons aussi qu'il viendra au pouvoir, c'est pourquoi nous prenons cette parole avec nous et nous gardons nos positions. Quoi cela nous coûte? Si nous devons découper les Philistins ou sauter dans une fosse et tuer un lion, comme l'on l'a fait, nous dirons de toute manière, car c'est ainsi que Dieu l'a conçu. Nous recherchons le caractère. Il se peut que vous me demandiez maintenant, pourquoi a-t-il permis qu'elle soit ainsi conçue? Je ne veux pas prendre trop de temps, parce que j'ai encore beaucoup à dire ici. Pourquoi? La question peut alors se poser. Pourquoi Dieu a-t-il fait cette femme comme ceci? Pourquoi a-t-il permis qu'elle soit ainsi? C'était pour son bon plaisir. Assurément. Maintenant, si vous voulez prendre votre Bible une minute, lisons dans Romains 9, et je vous montrerai comment Dieu fait ces choses, si vous voulez le lire. Et nous pourrons voir ici que Dieu fait tout selon son bon plaisir. Romains 9, 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Faut-il choisir Jacob et rejeta Ésaü avant que chacun des garçons eût le droit de choisir lui-même? Avant leur naissance, tandis qu'ils étaient encore dans le sein de leur mère, Dieu dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Voyez-vous pourquoi? Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il... Maintenant, observez bien. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Maintenant, trouvez donc quelque chose à se dire à cela. Dieu l'a fait. Il devait le faire ainsi. Cela devait être là. Maintenant, écoutez. Pendant environ 5 minutes, je désire attirer votre attention sur quelque chose. Qui est Dieu? Dieu est le grand éternel. Au commencement, bien avant qu'il y ait un commencement, il n'était même pas Dieu, le saviez-vous? Un Dieu est un objet d'adoration. Il n'y avait rien pour l'adorer, il vivait seul. Et en lui se trouvaient des attributs. Qu'est-ce qu'un attribut? Une pensée. Maintenant, vous allez recevoir quelque chose qui touche à la leçon de ce soir. Remarquez, en lui étaient les attributs. En lui était l'attribut de Père, l'attribut d'être Dieu, celui d'être Fils, celui d'être un sauveur, un guérisseur. Et toutes ces choses, ici, ne sont que le déploiement de ces attributs. Il n'y a rien qui ne soit pas dans l'ordre. Vous pensez que Dieu n'a pas vu la fin dès le commencement? Certainement il l'a vu. Il n'y a rien qui ne soit pas à sa place. Ce n'est que le déploiement de ses attributs. Ainsi, il ne pouvait pas être juste et faire en même temps qu'un homme tombe. Il devait le mettre sur une base d'égalité qui lui permette de faire son propre choix, tout en sachant qu'il tomberait. Alors, or, il ne peut pas être un sauveur à moins que quelque chose soit perdu. Il ne peut pas être un guérisseur à moins que quelque chose soit malade. Ces choses devaient être ainsi. Dieu les a faites ainsi, afin que ces grands attributs puissent être manifestés. S'il n'y en avait point eu, il n'aurait jamais été un sauveur. Mais nous savons qu'il l'était. Avant même que le temps existe, il était un sauveur. Il était un chauffeur. Ainsi, il devait y avoir quelque chose de perdu. Comment serait-ce possible? Si le prêtre le perd simplement pour le sauver, alors il n'y a pas de justice dans son jugement. Il ne pouvait pas envoyer un homme en enfer, être juste, étant bon, doux, fidèle et loyal. Il est un grand juge. Voyez-vous, il travaillerait contre lui-même. Ainsi, il dut placer un homme ici et faire en sorte qu'il puisse choisir, tout en sachant qu'il tomberait. Et l'homme à son image, comment pouvait-il tomber? Maintenant, commencez-vous à voir clair? Ainsi, il dut faire un sous-produit. Quelque chose en dehors de la création originale. Maintenant, vous le voyez. Voyez-vous? Vous y venez. Voyez-vous? Alors, c'est ce qui tomba. Il le fit, sachant que cela tomberait. Et c'était placé entre les mains de Satan comme un vase dans un usage vil. Où l'honneur se trouve-t-il aujourd'hui? Réfléchissez à cela. Faites bien attention, maintenant. Alors, de nouveau, pourquoi a-t-elle été conçue ainsi et pas comme les autres femelles? Pourquoi la femme a-t-elle été conçue ainsi et pas les autres femelles? Aucune autre femelle n'était conçue ainsi. C'est encore ainsi aujourd'hui. Elle ne le peut pas. N'étant pas faite ainsi, elle ne peut pas le faire. Pourquoi n'a-t-il pas créé cette femme, cette femelle, la femme, afin qu'elle soit semblable aux autres femelles et qu'elle puisse simplement élever ses enfants? Alors elle aurait son mari et vivrait avec lui. Et quand viendrait le moment pour elle avoir un bébé, elle aurait son bébé. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ainsi? Maintenant, je peux difficilement prononcer ces mots. Mais vous comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas? Si vous comprenez, dites « Amen ». Oui, voyez-vous, il y a ici des fillettes et des jeunes garçons, voyez-vous. Mais vous savez que l'animal doit venir vers son compagnon pour s'accoupler à certaines périodes de l'année. Ensuite, c'est fini. Mais les femmes, c'est n'importe quand. Pourquoi a-t-il fait ainsi? Maintenant, voyez son grand plan s'illuminer au fur et à mesure que nous allons de l'avant. C'est absolument parfait. Je ne savais pas ceci jusqu'à l'autre jour. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ainsi au commencement, comme le reste des femelles? Parce que ce serait déplacé pour lui. Il est la source de toute pureté. C'est la raison pour laquelle il dut laisser Satan se saisir d'elle, ce qui l'a fait dans la perversion. Une telle créature ne serait pas convenable pour lui, conçue originellement. Tout ce qu'il a créé au commencement est dans la continuité. Toutes ses œuvres originales se trouvaient dans la continuité. La chienne, le chien, voyez-vous, la vache, le taureau. Tout en continuité, toute la nature est enfermée dans la continuité. La semence meurt, va dans la terre comme la mort. L'ensevelissement et la résurrection, la terre descend dans l'arbre, les feuilles tombent et reviennent l'année suivante avec la résurrection, de nouvelles feuilles. Voyez-vous ce que je veux dire? Tout même la nature de Dieu est un dans la continuité. Et voici quelque chose de conçu en dehors de la continuité de Dieu. La nature était ainsi créée qu'elle ne peut pécher. Pensez-y. La création originale de Dieu ne pouvait pécher. Oh, ne voyez-vous pas maintenant la perversion de l'Église? L'original est la parole de Dieu. Il n'y a pas de péché en Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Voici une créature qui est venue à l'existence par une perversion. Dieu aura une église, mais regardez la chose pervertie qu'ils ont là-bas. Dieu a créé un mâle et une femelle, mais cette femme, voyez-vous, les signes montrent ce qui était dans la pensée de Dieu. Nous pourrions prendre une heure ou deux pour examiner ceci en détail. Il fit cette créature dans ce dessin. Elle la laissa pour que Satan puisse se servir d'elle. C'est ce qu'il fit. Il la tient toujours. Elle ferait mieux de se réfugier auprès de la croix, et l'homme aussi. Remarquez, toute la nature marche dans la continuité. S'il avait fait la femme de la même création originale, il n'y aurait pas eu de péché, parce qu'elle n'aurait pas pu le faire. Elle n'aurait pas pu le faire. Elle est une perversion de la création originale. De même, tout péché est une perversion de la vérité originale. Qu'est-ce qu'un mensonge? C'est la vérité pervertie. Qu'est-ce qu'un adultère? C'est l'acte juste perverti. Ainsi, il y a la créature pervertie, il y a la chose pervertie. Et l'ensemble est appelé P-E-C-H-E-U. C'est là que cela se trouve. C'est pourquoi la question est si importante. Seulement une partie, un fragment tiré de l'homme est conçu pour le tromper. Dieu l'a fait, ceci l'a prouvé, et fut fait dans ce but. Une femme immorale est la chose la plus vile que l'on puisse imaginer sur la terre. Excusez ceci, jeune femme. Elle n'est rien d'autre qu'une poubelle humaine. Une exposition du sexe. C'est tout ce qu'elle est. Une femme immorale est une poubelle sexuelle humaine. Une pollution. Où tout ce qui est corrompu, sale, souillé, vil, vient par elle. Pourquoi est-elle faite ainsi? Pour tromper. Tous les péchés qui se sont trouvés une fois sur la terre ont été causés par une femme. Tenez, à Chicago, une femme a écrit un article en collaboration avec la police disant que dans le 98% des crimes aux États-Unis, quel qu'il fût, aux États-Unis métropolitains, la femme y était mêlée directement ou indirectement. Maintenant, je dis tout ceci pour arriver finalement à ce que vous puissiez savoir ce qui en est. Elle fut faite pour tromper, comme elle le fit avec Adam au commencement, lui disant que le fruit était plaisant, etc., afin de le tromper et l'éloigner de la parole. C'est ainsi qu'agit l'Église aujourd'hui, c'est pareil. Mais après cela, il commença à dominer sur elle. Or, quelle différence de conception nous avons aujourd'hui! Au lieu que lui domine sur elle, elle est devenue son Dieu. Assurément. C'est elle qui domine sur lui. Maintenant, vous êtes à même de comprendre où je veux en venir. Par sa beauté et son contrôle du sexe, sa forme qui lui fut donnée par Satan, elle, le sous-produit modelé par Satan, elle est utilisée pour tromper les fils de Dieu. Elle peut en envoyer en enfer davantage que n'importe quel autre instrument de Satan. Exactement. Je parle maintenant d'une femme immorale, mais pas de vous, sœur. Nous vous redonnerons votre place dans quelques minutes, dans la parole de Dieu ici. C'était dans le plan de Dieu dès le commencement. Maintenant, pour faire ceci aujourd'hui, quel est le Dieu des États-Unis? Vous vous souvenez au tabernacle, il y a de cela plusieurs années, je prêchais sur le Dieu de ce jour moderne. Elle apparaît comme une fille, au visage fardé, portant une robe au-dessus des genoux, etc. Je dis, voici votre Dieu. Et c'est vrai! Elle se trouve sur chaque réclame, à moitié nue. Elle est parée dans la rue. C'est un instrument de Satan. Depuis le commencement, a dit Jésus. Voyez-vous, nous voyons maintenant de quoi elle parlait, et que c'était ainsi dès le commencement. Les païens, eux, avaient l'habitude de faire d'elle un Dieu. Le saviez-vous? Une déesse? Ils ont fait d'elle une déesse. Car des actes sexuels faisaient partie de leur adoration. Ils prétendaient qu'elle était une créatrice, que dans son sein, elle portait la semence et créait. C'est un mensonge. Il n'y a qu'un créateur, c'est Dieu. Vous souvenez-vous de Paul, que Dieu était là-bas, Gan d'Éphèse, représenté par un rocher que selon eux, la déesse du ciel avait jeté sur la terre? Ne voyez-vous pas comment on se présente l'adoration païenne? Et nous, sans le savoir, nous retournons tout droit à l'adoration païenne de la femme, la créature la plus vile de la terre. L'adoration de la femme. Elle peut envoyer les hommes où elle veut, ne sachant pas que derrière toute cette beauté extérieure se trouve un enfer à l'intérieur. Salomon a dit que ses portes sont les portes de l'enfer. Maintenant, nous voyons ici clairement ce que Jésus a dit dans l'Apocalypse au chapitre 2 et au verset 15 au sujet de la doctrine des Nicolaïtes. Quel serait le sort de cette église qui s'éloigne de la parole? Nous pouvons voir aussi clairement dans ces programmes vulgaires, impies et corrompus que nous avons à la télévision, ce qui en est des reines du sexe de Hollywood. Nous pouvons voir la corruption de cette ville dont tes jeunes gens et jeunes filles se promènent ici dans la rue, en se dandinant dans tes petits habits qui collent au corps, alors qu'ils gèlent à pierre fendre. Ils ne savent pas que c'est le diable qui fait cela. Ils sont possédés d'un mauvais esprit et ne le savent pas. Vous ne voyez pas une chienne faire cela, ou bien? Vous ne voyez aucune femelle faire cela, et aucun mâle s'aviserait de s'approcher d'elle non plus. Voyez-vous? Maintenant, voyez-vous l'image? Dieu voulant, nous allons y introduire quelque chose dans un instant. Maintenant, vous voyez les Nicolaïtes, vous voyez leur doctrine, vous voyez les reines de l'adolescence, comme on les appelle. Ce striptease dans la rue. Autrefois, pour voir un striptease dans un spectacle vulgaire, il fallait aller à l'écart. Maintenant, vous n'avez qu'à ouvrir les yeux et regarder, cela suffit. Tout est un striptease, assurément. Pourquoi le font-elles? Pour tenter. Provoquer. C'est seulement pour cela qu'elle peut le faire. Elle le fait parce qu'elle est corrompue. Elle le fait parce qu'elle est faite ainsi. Elle ne réalise pas qu'elle est un instrument de la main de Satan. C'est ce qu'elle est. Même dans nos écoles aujourd'hui, on fait de l'éducation sexuelle. Notre monde est pourri pour avoir fait de la femme un sujet d'adoration. Je sais qu'on ne veut pas le croire. Un jour, il se lève et sort d'une espèce de cantique. Et le résultat, il court toute la nuit avec des femmes. Voyez-vous? Très bien. Alors qu'aux yeux de Dieu, de la parole, elle est l'animal le plus vil que Dieu ait mis sur la terre. Observez. C'est pourquoi Dieu lui a interdit d'enseigner sa parole. C'est vrai. 1 Timothée 2:9-15. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité. Voyez-vous? Et aussi en Corinthiens 14:34, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon ce que le dit aussi la loi. Mais aujourd'hui, que fait l'Église? Ils font d'elle des pasteurs, des évangélistes. Alors que la Bible est catégorique là-dessus. Il est écrit, selon que le dit aussi la loi, faisant tout marcher dans la continuité. C'est pareil à ce qu'était l'agneau hier soir. Le seul lieu d'adoration, c'est sous le sang de l'agneau immolé. C'est le seul lieu aujourd'hui, en Christ. Le seul moyen de le faire, c'est d'entrer en lui. C'est le seul lieu d'adoration. Cela a toujours été ainsi. Le seul lieu d'adoration se trouve sous le sang répandu. Ainsi maintenant, nous voyons toute l'image prendre forme devant nous. Elle est là. C'est pourquoi Dieu ne veut pas qu'elle enseigne ou fasse quoi que ce soit dans l'église, si ce n'est de rester assise, dans le silence, le visage voilé. Maintenant, pouvez-vous voir, frères et sœurs, pourquoi, sachant ceci dans mon cœur, j'ai dit et fait ces choses? Je sais, sœurs, que vous avez votre place, un instant, et que Dieu peut former un merveilleux caractère en vous, mais j'essaye parallèlement de vous montrer simplement ce que vous étiez depuis le commencement. Jésus nous a dit de retourner au commencement pour le découvrir, c'est ce que nous faisons. J'ai dû toucher une bonne partie des points principaux, et j'espère que vous comprenez cela maintenant. Et vous, qui écoutez cette bande, j'espère que vous comprendrez aussi. Revenez simplement en arrière. Simplement en arrière. C'est simplement pour montrer que Jésus a dit, retournez au commencement et regardez. Toute chose a son origine au commencement. Vous pouvez voir aujourd'hui pourquoi les gens disent que je suis un misogyne. C'est loin d'être la vérité. Je n'en suis pas un. On m'appelle un misogyne. Souvenez-vous qu'il reprochera Paul d'être un misogyne. Un prédicateur m'a dit, il n'y a pas longtemps, « Oh, vous êtes comme ce Dieu Paul !» Tout ce qu'il savait faire, c'était de nous critiquer, nous les femmes. Un saint de Dieu a-t-il été permis d'écrire la Bible, le Nouveau Testament, et oser discuter ses paroles? Il a dit qu'il y a un ange du ciel. On sait autre chose que ce que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Combien plus quand il s'agit d'une femme prédicateur? Lire Kelly était un misogyne. N'était pas un misogyne à l'égard des véritables femmes. Simplement, il n'aimait pas ses Jézabel. Et s'il en est ainsi, alors Dieu doit être pareil, parce qu'il est la parole qui vient au prophète. Ainsi, ça doit être semblable pour Dieu. Ainsi, voyez-vous, il connaît la création originale depuis le commencement. Il a dit dès le commencement, ils étaient des prophètes à qui venait la parole.
Et il a fait la femme pour l'homme, et non l'homme pour la femme. Le saviez-vous? Saviez-vous que la femme fut faite pour l'homme, et non l'homme pour la femme? Combien le savent? La Bible l'enseigne. Très bien. Avant la chute, elle reçut une place aux côtés de l'homme, ayant les mêmes droits que lui sur toute la création. Mais après la chute, maintenant nous arrivons au sujet, mais après la chute, c'est lui qui domina sur elle. Elle doit se taire en toutes circonstances. Maintenant, après ce qui s'est passé au commencement, Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire que le temps a commencé et qu'eut lieu la création originale de Dieu. Que tous ceux qui comprennent disent de nouveau Amen. Au commencement, Dieu créa simplement un mâle et une femelle. Mais la femme fut faite différemment des animaux, de tous les autres animaux, ceci pour tromper. Maintenant observez, il n'en était pas ainsi au commencement. Elle fut faite, s'il était resté dans sa condition originale, il n'y aurait jamais eu de chute. Mais elle causa la chute, et cela produisit une interruption dans toute la continuité de Dieu, et jeta la mort, la tristesse et tout le reste sur la terre. Elle fut faite ainsi. Maintenant remarquez, après le commencement, après que le temps eut commencé, avant c'était l'éternité, tout fut terminé. Remarquez, après la chute, causée par Ève, après la chute, une autre alliance dut être faite. Maintenant, ceci va vous surprendre, mais je vais vous donner le passage de l'Écriture qui prouve que c'est la vérité. Maintenant, remarquez, après la chute, Jésus a dit, Dieu, au commencement, en fit un d'une espèce. Mais maintenant, après la chute, maintenant nous allons plus loin, l'alliance était semblable. Mais après la chute, une autre alliance fut faite. À ce moment-là, elle ne domina plus avec lui. Chacun devait avoir une alliance séparée. Maintenant, voyons si c'est juste. Prenons Genèse 3 et regardons si c'est juste, tandis que nous continuons, parce que nous voulons être sûrs que les choses enseignées et exposées sont exactes. Peut-être que nous pouvons prendre maintenant quelques instants, parce que nous ne sommes plus très loin de la fin, avant d'arriver à la dernière partie du sujet, ceci pour montrer la cause du divorce, etc. Maintenant, dans Genèse chapitre 3, nous commencerons au verset 16, ou plutôt au verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, maintenant il va le maudire, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La promesse venant à travers la femme, le Messie qui devait venir racheter. Il dit à la femme, maintenant regardez, il y a l'alliance avec le serpent, alors qu'ils étaient en ordre au commencement, ou plutôt avant le commencement. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Plus du tout égaux. Aujourd'hui, elle a changé et c'est elle qui domine. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit. Ce n'est pas Adam qui sera maudit, mais le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Deux alliances. Maintenant, Cela termine la première partie de la déclaration de Jésus. Il n'en était pas ainsi au commencement. Nous avons maintenant une autre alliance. Remarquez. C'est une autre alliance. Maintenant, il y a une alliance pour le produit et une autre pour le sous-produit. Remarquez, la chute amena l'affliction, la mort pour chaque créature de la création, introduisant un changement dans toute la nature. Maintenant, remarquons ce que Jésus a dit au sujet de « au commencement, il n'en était pas ainsi ». Maintenant, ce n'est pas ainsi depuis. Maintenant, c'est après le commencement. Il y a une double alliance. Au début, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux. Un homme, une femme. Or, la femme pécha. Quel en fut le résultat? Cela les conduisit tous à la mort, et Dieu dut faire une alliance, une autre alliance. C'est là que cela se trouve, dans Genèse 3:16. Il fit une autre alliance. Maintenant, le monde doit être repeuplé, non par la création originale de Dieu, comme au commencement, non par la création originale, mais par le désir sexuel. Maintenant, cela répond à ce qui se rapporte au commencement. N'est-ce pas? Au commencement, il n'y avait qu'un homme et qu'une femme, un mâle, une femelle. Mais lorsqu'elle traversa cette ligne et apporta le péché, maintenant le monde doit être repeuplé par le sexe. Pas par la création, mais par le sexe. Voyez-vous maintenant où se trouve la femme? C'est ainsi que le monde doit être peuplé aujourd'hui, à travers des femmes. C'est la raison pour laquelle Jésus dut venir à travers la femme pour ramener cela à l'origine, sans le désir sexuel. Il est né virginalement. Mais alléluia! Il viendra un temps où ce ne sera plus le sexe, mais où Dieu appellera ses enfants hors de la poussière de la terre. Elle les ramènera à ce qu'ils étaient à l'origine. Pas à travers une femme, mais à travers le moulage de l'argile, de la lumière cosmique et du pétrole. Il le recréera comme il a fait pour Adam la première fois. Jésus a rendu ceci possible. Dieu se faisant homme, venu en ce monde, afin de mourir à travers cette femme. Maintenant a lieu le temps d'épreuve par le péché. Maintenant vous voyez qu'après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Maintenant, ceci va vous choquer. Êtes-vous fatigué? Restez tranquille encore un petit moment. Lorsque la double alliance de l'homme et de la femme se fit à travers le sexe, une alliance totalement différente, pas l'alliance originale, mais une autre alliance, celle qui fut introduite, la polygamie, partout. Alors, après le commencement, la polygamie fut introduite, à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement, la chute. Maintenant, Dieu, en second lieu, établit une nouvelle nature par le sexe. Dieu crée la première sans le sexe. Le croyez-vous? Maintenant, c'est une autre alliance avec la nature. Il est établi dans un autre ordre, par le sexe, de la seconde alliance. Un mâle, beaucoup de femelles. Un cerf, tout un harem de biches. Est-ce vrai? Un taureau, tout un troupeau de vaches. Un coq, une basse-cour pleine de poules. Est-ce vrai? Un David, selon son cœur, avec 500 femmes, à qui 100 enfants lui naissaient en une année de différentes femmes. Un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez ceci, il n'en était pas ainsi au commencement. Mais maintenant, c'est après le commencement. La femme dit ceci, puis elle devint ce qu'elle est maintenant. Voyez-vous? David, le roi qui représentait Christ. Gardez ceci à l'esprit. David, représentait Christ. Le croyez-vous? Un jour, Christ attira sur son trône. Et ce David, un homme selon le cœur de Dieu, eut 500 femmes. Voyez-vous ce que je veux dire? David avec 500 femmes, Salomon avec 1000, et Salomon, dans le naturel, est le fils de David, ce qui représente Jésus-Christ, le fils de David dans le spirituel. Mais c'est la vie naturelle par le sexe, et ceci va être une vie spirituelle créée. C'était ainsi au commencement, mais pas dans la vie que nous vivons maintenant. Remarquez! Ne manquez pas ceci maintenant, faites-le pénétrer dans vos cœurs. Mais aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. Lui faisait partie de la création originale, pas elle. Pas une de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. Mais ce mari pouvait avoir 1000 femmes. C'est ainsi dit le Seigneur, c'est la Bible. Je suis revenu en arrière. Maintenant, j'ai pris mon temps pour vous montrer ce que Jésus a dit au sujet du commencement. Maintenant, le voyez-vous clairement? Il pouvait avoir autant, on vous dit, c'était seulement pour Israël. Vraiment? Quand Abraham emmena Sarah dans le pays des Philistins, il y avait un roi du nom d'Abimélec. Et Sarah avait près de 100 ans, mais elle avait été transformée, était redevenue une belle jeune femme. Le saviez-vous? Très bien. Et Abimélec l'a voulu pour femme. Vous souvenez-vous de mon message là-dessus? Abimélec voulut prendre Sarah pour femme. Il avait probablement un harem. Mais il ne pouvait pas la prendre, c'était marié à Abraham. Ainsi Abraham dit à Sarah, « Dis que tu es ma sœur, sans quoi il me tuera pour t'avoir. » Pourquoi n'a-t-il pas simplement chassé Abraham hors du pays et pris sa femme pour lui? Ce n'était pas une loi seulement pour les croyants, mais pour tous les gens de la création. Que vous soyez un pécheur ou un saint, vous-même êtes responsable de tels actes. Il y avait là un roi païen. Combien savent que cette histoire est vraie? C'est la Bible, Genèse, dans le chapitre 16, je crois. Remarquez, Abimélec l'aurait prise pour femme. Il se mit en tête d'avoir cette nouvelle fille des Hébreux. Abraham dit, Sarah dit, c'est mon frère. Il dit, c'est ma sœur. Et Abimélec dit, alors je vais la prendre pour femme. Pourriez-vous imaginer un homme faisant telle chose? Mais il le fit. Et cette nuit-là, tandis qu'il dormait, le Seigneur lui apparut dans un songe et lui dit, Abimélec, tu ne vaux pas mieux qu'un homme mort. Dieu protégeait là ce courant de sang juif, vous voyez. Il dit, tu ne vaux pas mieux qu'un homme mort. C'est la femme d'un autre homme que tu es sur le point d'épouser. Elle répondit, Seigneur, tu connais l'intégrité de mon cœur. Ne m'a-t-elle pas dit que c'était son frère? Et lui, ne m'a-t-il pas dit lui-même, c'est ma sœur? Dieu dit, je connais l'intégrité de ton cœur. C'est la raison pour laquelle je ne t'ai pas permis de pécher contre moi. Est-ce vrai? Et lui dit, rends-lui sa femme, parce que cet homme est mon prophète. Et si tu ne lui rends pas sa femme et ne laisse pas prier pour toi, pas ton prêtre, mais si lui ne prie pas pour toi, ce sera la fin de toute ta nation. Amen. Voilà la grâce surprenante. Ce sera la fin de toute la nation. C'est la femme de cet homme, et il est mon prophète. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur, c'est l'Écriture. Maintenant, nous voyons que la mort est le résultat du péché de la femme, qui est venue à travers la femme et non à travers l'homme. C'est par sa manière de vivre et par elle que vient la mort. Sa manière de donner la vie engendre la mort. Combien le savent? Job 14, si vous voulez l'inscrire, inscrire la référence. Si vous avez des doutes à ce sujet, inscrire des passages de l'Écriture se référant à tout ceci. Si vous voulez lire Job 14, il est dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse à agiter. Est-ce vrai? Il naît, il est coupé comme une fleur, et il disparaît, etc. Voyez-vous, tout homme né d'une femme naît dans la mort, aussitôt qu'il vient au monde. Mais quand il est né dans la création de Dieu, il ne peut pas mourir. Il vient de cet autre arbre qui était dans le jardin d'Éden, Christ. La vie éternelle vient de l'arbre. Oh, vous dites, elle était un arbre? Assurément. Quand il était dit, tu ne mangeras pas de cet arbre, il a dit là dans la Genèse.
tu ne mangeras pas de cet arbre. La femme est un arbre. Elle est un arbre fruitier. Vous êtes le fruit de votre mère. C'est vous, le fruit de son sein. C'est vrai. Et alors, le fruit de l'arbre de vie qui est dans le jardin d'Eden, c'est Christ. À travers la femme, vient la mort. À travers l'homme, dans la création finale, vient la vie. Être né d'une femme, c'est la mort. Être né de Christ, c'est la vie. Voyez-vous l'idée? C'est là. Maintenant, vous voyez où les déesses sont allées, n'est-ce pas? Les premiers Adam et Ève typifiaient les seconds Adam et Ève. Voyez la multiplication. Or, la multiplication d'Adam et d'Ève se fait à travers le sexe pour remplir la terre. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Dieu fit seulement un mâle et une femelle, comme pour ses autres créatures. Voyez-vous? C'est légal. C'est pareil à l'Église. Maintenant, après avoir vu ces vérités de Dieu confirmées, allons plus avant, si vous le voulez bien. Très bien. Maintenant, ceci fera peut-être un peu mal, jusqu'à ce que nous arrivions au fond de la question. Je vais simplement vous montrer la vérité à ce sujet. Aucun serviteur de Dieu ne peut épouser une veuve. Le saviez-vous? Voulez-vous le lire? Très bien. Prenez Lévitique 21:7 et Ézéchiel 44:22. Et cela vous montrera que les sacrificateurs ne devaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. Ce type est celui de la virginité de l'épouse de Jésus-Christ, parce que les sacrificateurs, les fils d'Aaron, manipulaient le feu de Dieu. Nous n'avons pas le temps de tout lire, nous voulons sortir à midi, nous avons encore 20 minutes. Et ce sont les fils d'Aaron qui manipulaient le feu de Dieu. Ainsi, ils ne pouvaient épouser une femme qui avait été touchée par un autre homme. C'est le Dieu qui ne change pas, il a dit. Il ne pouvait épouser une autre femme, une femme qui avait été touchée par un homme, montre ici sous forme de type, si vous voulez le voir, que l'Église de Dieu vivant est la parole de Dieu pure et sans mélange et sans une non-dénomination qui était manipulée par des hommes. Remarquez, lisons ceci ici. Je désire vous le faire comprendre. Matthieu 5, Jésus a parlé ici de quelque chose qui est vraiment d'une importance vitale. Nous allons le voir. Matthieu 5, j'ai réservé certaines choses que je désirais dire seulement aux hommes, car ce n'était pas facile pour moi d'en parler devant nos sœurs. Mais je désire l'aborder maintenant. Maintenant, sœurs, je désire vous mettre la place promise par la parole de Dieu. Mais alors, sachez aussi rester. Matthieu 5, 32. Je désire que vous remarquiez ceci, vous réessayiez cette même idée à propos de un et de beaucoup. Matthieu 30. Je crois que c'est Matthieu 5, 32. Commençons verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. C'est Jésus qui parle, celui qui a dit depuis le commencement. Maintenant observez. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Voyez-vous, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Pourquoi? Elle se remariera. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Voyez-vous, elle a un mari en vie, ainsi aucun homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait, qui elle a un mari en vie. Elle n'a aucun prétexte. Mais cela ne s'adresse pas à lui, parce que c'est elle, pas à lui. Comprenez-vous? Vous devez faire en sorte que la parole se déroule dans la continuité. Voyez-vous, rien ne dit que lui ne puisse pas, mais c'est elle qui ne le peut pas. Voyez-vous, cela expose elle, pas lui. C'est exactement ce que dit la Bible. Cela expose elle. Il n'est pas déclaré que lui ne peut pas se remarier, mais c'est elle qui ne le peut pas. Pourquoi? C'est Christ sous forme de type. Remarquez, il est déclaré que lui ne peut pas se remarier, à moins qu'il s'agisse d'une vierge. Il peut se remarier si c'est une vierge. Mais il ne peut épouser la femme d'un autre. Certes, non. Et s'il épouse une femme divorcée, il vit dans l'adultère. Peu importe qui il est. La Bible dit, quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère. Vous y êtes. Ce ne doit pas être une femme divorcée. Voyez-vous maintenant ce qui en est depuis le commencement? Le remariage? Maintenant, remarquez. Lui peut, mais pas elle. Comme David. Comme Salomon,
comme la continuité de toute la Bible. C'est pareil pour David et les autres. Maintenant, remarquez. Dans 1 Corinthiens 7, 10, Paul ordonne à la femme qui se sépare de son mari de rester seule ou de se réconcilier, mais pas de se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier, elle doit rester seule. Mais remarquez, il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Voyez-vous, vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Dès le commencement, vint la loi du sexe, et par là la polygamie. La parole de Dieu, de la continuité, va de pair avec la nature qu'il a créée. Voyez-vous de quelle manière les uns sont partis à l'est, et les autres à l'ouest avec ceci? Vous devez revenir à la vérité pour découvrir ce qui en est. Cela a toujours été ainsi. C'est la véritable alliance avec Dieu depuis le commencement. Premièrement, au commencement, il y eut seulement un et un. Mais après la venue du péché, il y eut un homme et toute une bande de femmes. C'est ainsi dans la nature, pour chaque animal. Et les êtres humains, la chair elle-même, c'est animal. Nous sommes des mammifères, nous le savons tous, voyez-vous. Tout cela est la nature de Dieu dans la continuité. Maintenant que les sceaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous conduit à la parole. Cela explique le pourquoi de toutes les fautes commises à travers les âges. C'est parce que les sceaux n'étaient pas ouverts. Ce n'était pas révélé. C'est vrai. Remarquez, vous ne pouvez pas faire faillir les ombres, comme je vous l'ai prêché hier soir au sujet de l'ombre qui se réfléchit sur le sol. Cela doit être finalement juste. Comment pourrait-il y avoir sur le sol l'ombre d'un éléphant quand il y a là un tout petit homme, tout mince, ou l'éléphant apparaissant comme un petit homme mince? Maintenant, vous pouvez le remarquer dans un type parfait. Il existe une vraie femme vierge qui épouse un homme et vit avec lui est une bénédiction pour l'homme. Si Dieu avait pu donner quelque chose de meilleur à son fils qu'une épouse, il l'aurait fait. Mais elle est conçue en vue de l'acte sexuel. Et aucun autre animal n'est conçu ainsi. Aucune autre créature sur la terre n'est conçue comme ça. C'est à cause de cela que vous voyez la polygamie. C'est ce qu'il introduisit. Maintenant, regardez. Dans l'analyse finale, regardez. Il y a un Jésus-Christ. Est-ce vrai? Un homme, Dieu Emmanuel. Le croyez-vous? Mais les membres de son épouse sont nombreux. Des milliers de milliers. Est-ce vrai? Sa femme, l'épouse, l'Église. Comprenez-vous maintenant? C'est pourquoi il dit à Adam, avant que n'apparaisse le sexe, multipliez et remplissez la terre. Lorsqu'il était encore au commencement, lorsqu'il était encore à la fois mâle et femelle en lui-même, cela montre que l'épouse doit venir de la parole. Par une multiplication spirituelle. Voyez-vous, pour remplir la terre. Maintenant, dans l'acte sexuel, voyez-vous, dans leur conception, ils ont mélangé ces deux choses. C'est pourquoi vous n'arrivez pas, vous devez revenir à la vérité à ce sujet. Au commencement, et à la fin, il y aura un Seigneur Jésus, singulier. Et son épouse, beaucoup. Comprenez-vous? Il y avait un David sur le trône. Un roi, selon le cœur de Dieu, avec 500 femmes. Jésus, assis sur son trône, alléluia, dans le millénium, avec une femme comme au commencement, tiré de la terre, créé par la main du Dieu Tout-Puissant, de la résurrection, et formé de nombreux membres. Vous y êtes. Femme, efforcez-vous d'être cela. Venez en Christ, alors vous ne serez pas dans cette saleté là-bas. Mais aussi longtemps que vous n'êtes qu'un membre d'Église, essayant de vivre bien moralement par vous-même, vous n'y arriverez jamais, ni un homme s'il n'est pas en Christ.
Ainsi Paul continue en disant, mais en Christ, il n'y a ni mâle ni femelle. Ils sont tous un. Mais afin de mettre au point cette question du mariage et divorce, et que vous sachiez ce qui est juste et ce qui est faux. Il montre clairement ici, dans ces types, qu'il y a un Christ et beaucoup de membres qui forment cette épouse. Remarquez, il peut nous répudier pour fornication spirituelle et fausse doctrine, quand il le désire. Mais comment oseriez-vous essayer de le répudier? Espérez néanmoins être pris. Un homme peut répudier sa femme et en épouser une autre, mais une femme ne peut pas répudier son mari et en épouser un autre. Voyez-vous tous les ombres et les types là qui s'accordent parfaitement? Voyez-vous, la création originale, nulle part ne se produit, pas l'Église, mais l'épouse à travers la parole, pas la femme, l'homme, chaque fois. Il n'est jamais rien dit qui s'oppose à ce que l'homme le fasse, c'est toujours la femme, exactement, mais elle peut être l'épouse de Christ en étant, et souvenez-vous, étant donné qu'elle est une partie de l'homme, la Bible dit qu'elle peut seulement, toutefois, elle ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam était formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui était séduit, c'est le sous-produit. Elle sera néanmoins sauvée si elle persévère dans la sainteté, dans la modestie, en devenant mère, etc. Parce qu'alors, elle devient une partie de cet homme. C'est ce qui amène, pourquoi Dieu n'a-t-il pas tué Sarah lorsqu'elle nia? Elle lui mentit ouvertement, tandis qu'il était assis là comme un homme mortel, mangeant de la viande et du pain et buvant du lait. Il dit, pourquoi Sarah t'elle rit derrière mon dos, dans la tente? Et ceci, donc il l'ait vu, disant, comment ces choses peuvent-elles arriver? Elle dit, je ne l'ai jamais dit. Oh là là, dire à Dieu en face qu'il est un menteur? Mais il ne pouvait la reprendre. Pourquoi? Elle était une partie d'Abraham. Il ne pouvait pas lui faire de mal sans faire aussi du mal à Abraham. Maintenant, vous, femmes, reconnaissez-vous votre place? La Bible dit que vous, femmes, devez être comme Sarah, qui était vêtue décemment, étant honnête et fidèle à son mari, l'aimant à tel point qu'elle l'appelait son Seigneur, celui qui domine sur elle, sa propriété. Et certaines parmi vous, femmes, portaient des habits indécents et mangeaient là-bas, vous jetant la tête des hommes. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Alors, qui est coupable, l'homme ou vous? Il est un mâle, fait pour pouvoir se permettre cet acte. Voyez-vous? Et vous êtes la femelle qui doit refuser. Maintenant, pourquoi vous exposez-vous dans cette tenue? Ce n'est pas pour le confort. Vous savez que ce ne peut être cela. Alors que vous gelez à moitié avec ces shorts. Cela ne peut pas être pour le confort. Alors qu'est-ce? C'est pour la corruption. Vous ne voulez pas la naître, mais c'est la Bible qui le dit. C'est la vérité. C'est un esprit corrompu qui est en vous. Vous ne voulez pas être corrompu, mais vous ne réalisez pas que spirituellement, vous êtes corrompu, parce que vous vous présentez ainsi. Maintenant, un homme avec ses vieux genoux noueux, s'il ne portait presque pas d'habit, ça ne ferait pas de différence. Son corps n'est pas séduisant. Pourquoi? Il était dans la création originale. Cela devait être le caractère. Mais vous êtes le sous-produit par lequel vous pouvez séduire. Oh Dieu, sois miséricordieux. Oh ce monde pécheur. Je serai content quand ce sera terminé.
Amen.
Regardez. Il peut répudier sa femme quand il le désire, mais elle ne peut pas le répudier. Il peut me jeter dans la poussière chaque fois qu'il en a l'idée, mais oh frère, je ferais mieux ne pas moi essayer de l'y jeter. J'en serais fait de moi. Salomon pouvait épouser n'importe quelle femme qui n'était pas mariée. Il pouvait épouser n'importe quelle femme qu'il voulait. Un sacrificateur ne pouvait épouser qu'une femme vierge. Salomon, comme David, celui-ci épousa, comment s'appelait-elle? Abigail. C'était la femme d'un homme qu'on traitait de fou. Il avait une gentille épouse, elle mourut. Et Abigail devint l'épouse de David. Il était roi, et non un sacrificateur. Voyez-vous, c'est pourquoi il épousa. Mais un sacrificateur n'aurait pas pu le faire, parce qu'il aurait pris une femme qui avait déjà été l'épouse d'un autre homme. Ainsi, cela montre la discernité
la virginité de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'épouse devra être la pure parole, sans amputation quelconque. Certainement. Pourriez-vous imaginer une épouse correcte à qui il manquerait un sein et dont l'autre n'irait pas bien non plus? Ce n'est pas ainsi que sera l'épouse de Christ. Elle sera parfaite. Elle est l'entière parole, pas une parole amputée quelque part. Non. Remarquez, lui peut la répudier, mais elle ne veut pas le faire. Il le fit, c'est prouvé, lorsque Luther, Wesley et la Pentecôte refusèrent de devenir une partie de lui plus importante par des rapports spirituels qui auraient permis qu'il soit fécondé dans une plus large mesure de la parole. Comprenez-vous? Elle refusa. L'Église luthérienne refusa que Christ la désire davantage. Luther refusa. Et laissez-moi dire ceci. On m'appellera comme on voudra. C'est pareil aujourd'hui avec chacune d'elles. Elles ne veulent pas accepter cette parole. Elles refusent Christ. Et n'importe quelle femme qui refuse un enfant à son mari n'a pas le droit d'être sa femme. Amen. Vous vous souvenez dans la Bible, lorsque le roi épousa Esther, c'était parce que la reine s'était refusée à lui. Il en prit simplement une autre. Et quand le... Qu'arriva-t-il lorsqu'elle refusa de venir devant le roi et de lui obéir? C'était la même chose pour une femme qui refuse d'être une épouse pour son mari. Et il en est de même avec l'Église qui refuse d'être fécondé dans l'âge dans lequel nous vivons maintenant, afin d'enfanter des enfants à cet âge. Nous ne sommes pas des luthériens, nous ne sommes pas des wesleyens, et nous ne sommes pas non plus pentecôtistes. Nous devons être les enfants de cet âge à travers la fécondation de la parole de Dieu, afin de produire un enfant à cet âge, l'enfoncement. Amen. J'espère que vous comprenez. Elle ne pouvait pas être fécondée, non. Alors que fit-il? Il la répudia et divorça d'avec elle. C'est vrai. Mais elle n'ose pas le répudier. C'est lui qui la répudie. Il continue à révéler sa parole au corps, la confirmant et la prononçant lui-même. Ses enfants commencent à lui ressembler davantage, parce qu'ils arrivent à une pleine maturité. Ils deviennent des enfants de la parole, pas des enfants de l'Église. Des enfants de la parole. Elle épousera une charmante petite dame de la parole. Elle sera pure, n'ayant pas été touchée par une quelconque organisation ou théorie humaine. Elle sera l'épouse pure et propre de la parole. Amen et amen. J'espère que vous saisissez, vous qui êtes à l'écoute au loin. Elle sera la fille fécondée de Dieu. Voyez-vous de quel grand honneur une femme peut être l'objet? Voyez-vous quelle grande chose l'Église peut être? Mais vous voyez où la corruption la conduit. Si vous essayez de comparer l'Église du dehors à l'Église d'ici, vous n'arrivez pas à le faire. Essayez de comparer une prostituée de la rue à l'Église du Dieu vivant, ou une femme correcte à une prostituée. Pourquoi y a-t-il de telles choses? C'est la loi de Dieu, la loi des contrastes. Comment saurions-nous apprécier la lumière du jour s'il n'y avait pas de nuit? Comment saurions-nous apprécier le temps sec s'il n'y avait pas de pluie? Comment saurions-nous apprécier et respecter une vraie femme s'il n'y en avait pas une de souillée? Il continue à le révéler de la manière dont il révèle sa parole, mais aucun de nous n'oserait essayer de le répudier et d'en épouser un autre. Maintenant, il apparaît très clairement pourquoi les deux théories sont fausses. Vous ne pouvez pas aller dans cette direction, c'est fini. Vous ne pouvez pas davantage aller de ce côté-là, car cela irait bien au-delà de la promesse. Voici la promesse. Elle se trouve ici même. La parole n'est pas contradictoire. Elle doit rester dans la continuité. Pas plus que Matthieu 28, 19 n'est en contradiction avec Actes 2, 38. Maintenant, je sais que certains d'entre vous, femmes ou hommes, n'êtes pas d'accord avec cela, parce que vous ne pouvez pas le cacher en ce moment. Vous ne pouvez pas. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Comment expliquer Matthieu 28, 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'ensuite, ils fassent demi-tour, si bien que chaque personne qui fut baptisée le fut contrairement à cela. Soit au nom de Jésus-Christ, pendant toute la période couverte par la Bible, et pendant encore 300 ans après cette époque, jusqu'au Concile de Nicée. Alors, aurait-il adopté des dogmes à la place? D'où vient cette différence? Si ce n'est pas révélé, mais savez-vous que le livre entier, la Bible entière est une révélation? C'est ainsi que vous devez reconnaître la vérité entre ceci et cela. C'est parce que c'est une révélation, et la révélation doit être exactement en accord avec la parole, mais pas contraire à la parole. Vous dites, eh bien, cela m'a été révélé. Mais si c'est contraire à la parole, cela n'est jamais venu de Dieu, c'est vrai. Maintenant, si vous voulez prendre Matthieu 16, 18, Jésus a dit lui-même que toute l'Église, son Église, serait bâtie sur la révélation spirituelle de lui-même. C'est-à-dire sur la parole. Je te dis que tu es Pierre, et que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur cette pierre, je sais que nos amis catholiques disent qu'elle fut construite sur pierre et que Pierre était un père de la succession apostolique. Les protestants, eux, disent qu'elle fut construite sur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour être différent, mais prenez simplement ce qu'il a dit. Il a déclaré, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur cette pierre, la révélation spirituelle de ce qu'est la parole. Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'ébranleront jamais. Sa femme ne sera pas tentée par un autre homme. Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'ébranleront jamais. Abel et Caïn dans le jardin d'Éden. Caïn eut sa propre idée. Il dit, maintenant regarde, Dieu est un Dieu bon. Il est au-dessus de toute la nature. C'est pourquoi je vais prendre des haricots, des pommes de terre, des fleurs, et je lui ferai un autel très plaisant. C'est une église. Il s'agenouilla, il croyait en Dieu. Il adora Dieu en élevant ses mains et offrit ce sacrifice. Il suivit la même marche religieuse qu'Abel. Abel construisit le même genre d'autel. Mais lorsqu'Abel apporta son sacrifice, il apporta un agneau. Caïn pensait que son offrande serait l'antidote du péché, étant donné que l'on avait dit dans le jardin que leur père et leur mère devaient avoir mangé un fruit. Mais Abel, par une révélation divine, sut que c'était le sang qu'il fallait. Par une révélation divine. Et la Bible dit dans Hébreu au chapitre 11, qu'Abel, par la foi, par révélation, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est à cause d'elle que Dieu le déclara juste. Est-ce vrai? Amen. Frères et sœurs, cela ne peut pas être plus clair que pour moi. Voilà, tout est là. Maintenant, revenons au mariage et au divorce. Voyez-vous, cela doit être révélé. Avant ce moment-là, vous ne savez rien. Mais il a promis que dans les derniers jours, dans cet âge, tous les mystères cachés dans la Bible seraient révélés. Combien le savent? Apocalypse, chapitre 10. Jésus a promis que tous ces mystères cachés relatifs au mariage et au divorce, entre autres, seraient révélés dans les derniers temps. Maintenant, vous vous souvenez que la voix dit « Va, Tucson ». Vous vous souvenez-vous de la lumière mystique dans le ciel, de ces sept anges qui se tenaient là? Et à mon retour, les sept sceaux ne furent-ils pas ouverts? Observez ce qui est arrivé. C'est vrai. Maintenant, allons juste un petit peu plus loin. Mais maintenant, écoutez-moi. Je sais que vous, c'est bientôt le moment pour vous d'aller manger. Quant à moi, je suis en train de me régaler. Remarquez. Maintenant, la femme a sa place. Elle est un joyau. Salomon, cet homme qui avait 10 000 femmes, ou plutôt 1 000 femmes, déclara qu'un homme qui avait trouvé une femme avait trouvé quelque chose de bon. Il déclara qu'une femme bonne est un joyau à sa couronne. C'est un honneur. Mais une femme inique, c'est de l'eau dans son sang. C'est sa vie. Il dit, il y a peut-être un homme juste entre 1 000. Salomon l'a dit. Mais vous ne pourriez pas trouver une femme juste entre 1 000. C'est Salomon qui l'a dit. Maintenant, remarquez cela. Mais voyez-vous, femme, vous pouvez être un joyau si vous le voulez. Mais le désir doit venir de vous. Et vous voyez pourquoi la question du mariage et du divorce a été, c'est la chose à laquelle Jésus nous a ramenés. C'est parce que votre espèce fut la cause de tout le péché. C'est la raison pour laquelle la polygamie et le divorce furent introduits. Au commencement, ce n'était pas ainsi, et ce ne sera pas ainsi dans l'autre monde. Regardez Jacob, dont sont issus les patriarches. Il avait au moins une douzaine de femmes. Il épousa deux sœurs et il eut en outre des concubines, des femmes de droit coutumier avec lesquelles il vivait, et des patriarches naquirent de ses concubines. Est-ce vrai? Voyez-vous, vous devez laisser la parole se dérouler dans l'harmonie. Oh, j'en ai des pages là-dessus. S'il arrivait qu'un ecclésiastique vienne à me questionner à ce sujet, et que nous puissions nous rencontrer, nous aurions de quoi discuter. Mais assurément, s'il est quelque peu spirituel, il pourra voir ici même que c'est la vérité. Il n'y a aucun doute. Une femme bonne est une bonne chose. Je le sais d'après de véritables femmes. J'ai rencontré de véritables femmes aussi véritables que n'importe quel homme. Elle est un sous-produit, une partie de lui. Lors de la chute, il l'écouta. Elle est une partie de lui. Mais cela dépend d'elle. Elle est faite de telle manière qu'elle puisse être corrompue. Elle a reçu le droit de refuser ou d'accepter. C'est contraire à la nature originale du commencement. Voyez-vous, vous y êtes. C'est maintenant midi. Ainsi, je vais laisser quelque chose de côté pendant quelques minutes. Laissez-moi vous poser une question. Maintenant, souvenez-vous, j'adresse ceci uniquement à mon groupe et à vous qui êtes au loin. J'adresse ceci seulement à mes disciples. Ce message est seulement pour eux. Et ce que je vais dire ici, n'importe quel prédicateur, il est le berger de son troupeau, qu'il fasse ce qu'il désire. Cela ne regarde que lui et Dieu. N'importe quel prêtre ou prédicateur, c'est à vous de décider, mon frère. Je parle seulement ici à Jeffersonville, le seul endroit où je dirais ceci, parce que c'est mon propre troupeau. C'est le troupeau que le Saint-Esprit m'a donné de comprendre et surveiller. Il m'en tiendra pour responsable. Ces gens se sont convertis ici, venant de tout le pays. Et c'est moi qui les ai conduits à Christ. Mes petits-enfants, je suis ici pour vous aider et je suis votre ami. Vous pouvez penser que je parle contre vous, mais je dis ceci pour votre bien. Je vous aime. Si ce n'est pas ainsi, Dieu est mon juge. Vous savez que je vous aime. C'est quelque chose de terriblement corsé. Je ne savais pas comment l'apporter. Que faire lorsque dans mon assemblée, j'ai des hommes et des femmes qui ont été mariés, certains deux ou trois fois. Des hommes bons, des femmes bonnes. Complètement brouillés. Quelle en était la cause? Un faux enseignement. Exactement. Ne pas avoir su s'attendre au Seigneur. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Pas ce que l'homme a uni, mais ce que Dieu a uni. Amen. Quand vous avez une révélation directe de Dieu que c'est la vôtre femme, alors c'est la vôtre pour le restant de votre vie. Voyez-vous? Mais ce que l'homme a uni, n'importe qui peut le séparer. Mais ce que Dieu a uni, aucun homme n'aurait avantage à y toucher. Ce que Dieu a uni, dit-il, que l'homme ne le sépare pas. Parce qu'un certain magistrat à moitié ivre, ou un autre a uni, ou ce qu'un prédicateur rétrograde, avec un tas de credos dans un livre, les laissant faire tout ce qu'ils veulent, alors que la parole de Dieu se trouve là, voyez-vous? Je parle de ce que Dieu a uni. Maintenant, je vais vous dire ceci. Je fais très attention à ce que je vous dis. Ce n'est pas mon intention d'être dur avec vous. Ce n'est pas mon intention d'être dur avec vous, mes frères, qui êtes pasteurs. Ce n'est pas mon intention. Mais j'ai une responsabilité, car je réalise que ceci a été placé entre mes mains. Et si, je ne peux pas le retenir. Et je ne sais pas comment l'apporter. Et je sais que cette bande va. Oh là là, je vais me préparer. Le bureau est ouvert parce que cela va venir. Voyez-vous, comme ce fut le cas pour la semence du serpent, mais il était prouvé que c'était absolument juste. J'ai dit des coupures de journaux où des femmes, à l'heure actuelle, même dans un grand diocèse, on y voit des reproductions d'une photographie représentant un serpent rampant sur la jambe d'une femme. Et la manière dont il entoure cette femme, cela lui procure toutes sortes de sensations et autres, quelque chose qu'un homme ne pourrait jamais lui procurer, avec cet énorme serpent enroulé autour d'elle. C'est l'exacte vérité. Et cela va de mal en pis et continuera ainsi. Un serpent, ce qu'il n'était pas, il ne pourrait pas avoir de relation sexuelle avec elle en tant que serpent. Mais souvenez-vous, J'ai eu une discussion l'autre jour avec un prédicateur des Assemblées de Dieu, un associé. Elle m'a dit, vous avez tort là-dessus. Je répondis, eh bien, peut-être. J'aimerais que vous me l'expliquiez. Alors, il se mit à m'en parler. Mais bientôt, il se perdit lui-même. Et l'une des choses qu'il dit, c'était, frère Branham, où est cette espèce qui, avez-vous dit, se trouvait entre l'homme et la bête et que la science ne peut retrouver maintenant? Où se trouve-t-elle? Est-elle sur la terre? Est-ce un chimpanzé? Non, parce que le sang d'un chimpanzé ne se mélangerait pas avec celui d'une femme, pas davantage celui de tout autre animal. Non, pas plus que le sperme d'un homme ne pourrait s'allier à une femelle. Cela ne marcherait pas. Alors où est l'animal en question? Or Dieu a dit que tout produise selon son espèce. J'ai attendu une minute et la douceur du Saint-Esprit me dit, dis-lui que c'est ici. Je commençais par dire, eh bien, cela peut être différent. Il répondit, mais frère Branham, c'est de la parole que nous parlons, n'est-ce pas? Oui, lui dis-je. Et j'ajoutais, bien sûr, on prétend que les autres animaux, comme les dinosaures, les mammouths, etc., sont différents. Cela aurait pu être ainsi. Frère Branham, dit-il, nous parlons d'une preuve qui se trouve sa confirmation dans la parole. Si le péché est ici, alors le péché originel devrait aussi être. Je dis alors, Seigneur Jésus, tu as dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz que vous viendrez devant les hommes, que cela vous sera donné à leur même. Seigneur, que dois-je répondre? Il dit, dis-lui que c'est ici, de la même manière que les visions sur l'estrade. Je dis, c'est ici, ne sachant pas où cela se trouvait. Où, dit-il? Et avant même que tu aies le temps de réfléchir, il dit, c'est le serpent. C'est exactement cela, car ce n'est plus une bête. Il fut maudit et condamné à être sur son ventre pour le restant de ses jours. Il est ici. Est-ce vrai? Et toujours dans le même acte, il continue à accomplir les mêmes œuvres de péché autour d'une femme comme un mâle. Voilà où elle se trouve, quand elle a des sensations, bien au-delà de ce qu'un homme pourrait bien lui procurer. Je m'arrêterai là, parce que nous sommes dans une assemblée mixte. Je prendrai les hommes et nous en parlerons davantage. J'ai ici à portée de main tous les journaux, etc. Et j'allais vous l'apporter ce matin. Je voulais consacrer tout le jour à cela. Mais je vais m'arrêter maintenant en disant ceci. Ceci est pour mon église seulement. Pas mon église, mais le petit troupeau qui me croit et me suit. Ceci est pour eux. L'autre jour, sachant que lorsque je vous dis quelque chose, cela doit être ainsi dit le Seigneur. Alors, j'avais alors les passages de l'Écriture, tels qu'il me les avait révélés. Mais je dis, Seigneur Dieu, que puis-je dire à cette assemblée? Cela créera la séparation. Des hommes assis sous le porche, dans la cour et partout diront, devrais-je la quitter? Et des femmes diront, devrais-je quitter mon mari? Que faire? Je dis, Seigneur, que puis-je faire? Quelque chose me dit, pars là-bas sur la montagne, et je te parlerai. Et alors que j'étais sur la montagne, je ne savais pas qu'en bas Tucson, on le voyait. Et que même les professeurs avaient fait sortir les enfants des classes. Ma petite fille y était, et dire, regardez là-bas vers la montagne. Il y a un nuage couleur d'ambre, comme du feu, qui ne fait que monter et descendre dans l'air. Madame Evans, êtes-vous ici? Et toi, Ronnie, es-tu ici? J'étais redescendu et m'étais arrêté à la station d'essence. Ce jeune garçon, à la station d'essence là-bas, à la station d'essence Evans. Et avant que je sus ce qu'il en était, il dit quelque chose qui me fit sursauter. Il dit, frère Branham, vous étiez là-haut sur cette montagne, n'est-ce pas? Je dis, Ronnie, que veux-tu dire? Non, voyez-vous, pour voir ce qu'il allait dire. Il arrive souvent des choses dont je ne parle pas aux gens. Cela devient ce qui se passe, c'est que vous voyez tellement de choses arriver que cela devient commun pour vous. Voyez-vous? Ainsi, je n'en parle pas aux gens. Je dis, que dis-tu, Ronnie? Il répondit, je peux vous montrer exactement l'endroit où vous trouviez. J'ai appelé maman, et nous avons observé ce nuage là-bas qui montait, qui descendait. Je dis, frère Branham doit se trouver quelque part là-bas. C'est Dieu qui lui parle. Et des gens dans toute la ville l'observèrent. C'était un jour clair, sans aucun nuage. Il n'y avait que ce gros nuage couleur d'ambre qui descendait en forme une sorte d'entonnoir pour ensuite remonter et se déployer.
Amen.
Mes amis, je vais terminer et vous pouvez partir. C'est à ce moment-là que m'a été révélé ce que je vais vous dire maintenant.
Amen.
Ainsi, ne le manquez pas. Maintenant, je m'adresse seulement à nos disciples, seulement à ceux qui me suivent et qui suivent ce message, pas à ceux de l'extérieur. Rendez mon témoignage devant Dieu. C'est seulement à ce groupe. Maintenant, nous nous trouvons dans ce désordre à cause d'une théologie mal interprétée. Est-ce vrai? C'est pour cela que vous, femmes, vous êtes mariées une deuxième fois et vous, hommes aussi. C'est à cause d'une théologie mal interprétée. Je désire vous montrer quelque chose qu'il m'a dit. Et si cette question fut posée à Dieu, notre Créateur, lorsqu'il était ici sur la terre, Jésus-Christ, et aussi lorsque son prophète libérateur, Moïse, allait en Égypte pour en faire sortir les enfants d'Israël et les conduire dans la terre promise, Jésus dit ici que lorsque Moïse vit les gens dans cette condition, il leur donna une lettre de divorce en raison de la situation. Moïse dit, par exemple, ceci, qu'il le consente, ainsi Dieu permit à Moïse, ce prophète envoyé vers le peuple, de leur accorder cette lettre de divorce. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, les versets 12 et 15, le prophète du Nouveau Testament, Paul, face à la même situation dans l'Église, dit ceci, « C'est moi, ce n'est pas le Seigneur. » Est-ce vrai? À cause de l'affaire du divorce. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais Moïse en reçut la permission et Dieu approuva cela. Et Paul en eut aussi le droit lorsqu'il trouva son Église dans cette condition. Maintenant, vous croyez que ceci est vrai. Et vous croyez que cela vient de Dieu. Et par la confirmation de son nuage et de son message qui m'a conduit jusqu'ici, Dieu, en haut sur la montagne, ne me permet-il pas d'agir de la même manière vis-à-vis de vous, en vous permettant de rester tel que vous êtes et de ne plus le faire? Entrez avec vos femmes et vivez en paix, car l'heure est avancée. La venue du Seigneur est proche. Nous n'avons pas le temps de démolir ces choses. Mais n'essayez pas de le refaire. Je parle seulement à mon assemblée. Si vous êtes mariés, et Dieu m'en a rendu témoignage sur la montagne pour que je puisse dire ceci, c'est une révélation surnaturelle en raison de l'ouverture des sept sceaux et parce que c'est là une question dont traite la parole de Dieu. Laisse-les continuer tels qu'ils sont et qu'ils ne pêchent plus. Il n'en était pas ainsi au commencement, c'est vrai. Il n'en était pas ainsi et n'en sera pas ainsi à la fin. Mais dans les conditions actuelles, en tant que serviteur de Dieu, je ne m'appellerai pas son prophète, mais je crois que si je n'étais pas envoyé dans ce but, je prépare le terrain pour lui quand il viendra. Ainsi, dans les conditions actuelles, je vous ordonne de rentrer maintenant chez vous avec votre femme. Si vous êtes heureux avec elle, vivez avec elle. Élevez vos enfants dans la crainte de Dieu, mais que Dieu ait pitié de vous s'il vous arrivait de le refaire. Enseignez vos enfants de ne jamais faire une telle chose. Élevez-les dans la crainte de Dieu. Et maintenant, tel que vous êtes, à l'heure tardive dans laquelle nous vivons, avançons et courons vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Christ où toutes choses sont possibles. À ce soir, que le Seigneur Dieu vous bénisse, tandis que nous prions. Seigneur Dieu, nous te remercions. Nous te louons. Tu es le même grand Jéhovah qui a toléré que Moïse. Qu'allait-il dire à ces gens? Et toi, ô Dieu, tu lui as permis de leur donner une lettre de divorce. Paul, le grand apôtre, écrivait le Nouveau Testament comme Moïse écrivait l'Ancien. Moïse écrivit ce qui touchait à la loi et à la dispensation de la loi. Les paroles de beaucoup de prophètes furent ajoutées à cela, mais c'est Moïse qui écrivit la loi. Et tu lui as permis de leur écrire une lettre de divorce à cause de la dureté de leur cœur. Le grand saint Paul, qui écrivit le Nouveau Testament, put faire aussi une telle assertion lorsqu'il dit, je parle en fonction de la situation. C'est moi, pas le Seigneur. Ainsi en est-il aujourd'hui, Seigneur Dieu, à la fin du monde. Alors que nous jouissons de la miséricorde de Dieu, nous savons que bientôt nous devrons répondre dans sa présence. Tu as tellement fait à la vue de ces gens qu'ils se cramponneront à ceci, j'en suis sûr, comme si cela venait de toi. Pour témoigner de cela, il y a de nombreuses personnes ici qui virent ce signe-là ou sur la montagne. Quand les anges du Seigneur vinrent dans un tourbillon, sept anges envoyés pour révéler les mystères, les sept mystères, puis ce même ange qui plus tard, dans la même direction, sur cette montagne, révéla ceci. Ô Dieu, je te prie afin que les gens rentrent chez eux reconnaissant que Dieu leur ait accordé cette grâce. Je l'ai dit seulement à cause d'une permission, Seigneur. Et je le dis seulement à cause d'une permission, Seigneur. Et fais que les gens soient si reconnaissants qu'ils n'essayeront plus jamais de commettre de tels péchés. Et puissent-ils ne jamais essayer de commettre le péché, mais puissent-ils l'aimer de tout leur cœur. Seigneur, rends ces familles heureuses, et puissent-elles grandir et élever leurs enfants dans la crainte de Dieu. Car le message qui était sur mon cœur est apporté, Seigneur. J'ai fait tout mon possible, et Satan m'a combattu pendant des semaines et des heures d'insomnie. Mais maintenant, Seigneur, j'ai ordonné à ces gens de méditer là-dessus et de vivre pour toi. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, ce n'est plus sur mes épaules. Ils sont entre tes mains. Je te prie de les bénir. Bénis tes mouchoirs qui viennent d'être placés ici pour les malades et les affligés, Seigneur. Puis cette soirée est une des plus grandes, des plus puissantes, afin que tous les gens soient guéris. Accorde-le, Seigneur. Bénis-nous tous. Puissions-nous aller en paix, heureux et dans la joie, parce que le Dieu de la création nous a montré ce qui s'est passé depuis le commencement et qu'il nous a accordé à nouveau sa grâce dans le gâchis où nous sommes en ces derniers jours. Ô Dieu, grand et éternel, combien nous t'en remercions et puisse nos cœurs être si heureux que nous n'ayons plus jamais le désir de pécher contre toi, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Love him. Why should you
love him? Ne l'aimeriez-vous pas?
Love him.